السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابن كثير c'est toi qui n'as pas le son. بارك الله فيك. اسمك ابن كثير c'est toi qui n'as pas le son. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب أم عبد الله فيه صوت ولا ما فيش؟ طيب جدا. Nous sommes inshallah ta'ala avec le dars du fiqh. Nous sommes le lundi 26 d'Oul Hijja 1427 Hijriya, c'est-à-dire le 15 janvier 2007, dans le 19e cours bi'idhna azza wa jal. La fois passée, on commence toujours par une révision. La fois passée, on avait dit que on s'était arrêté dans quelques innovations du Adhan. On avait dit, parmi les innovations, c'est التغني في الأذان واللحن فيه. التغني في الأذان واللحن في الأذان. C'est-à-dire ceux qui font comme يعني des chansons dans le Adhan. Ça devient, c'est comme le Madaih, c'est comme un Anashid dans le Adhan. On a dit ça, c'est une bid'a. Et aussi اللحن فيه. اللحن. Celui qui ajoute des lettres, celui qui retranche des lettres, tout ça. يعني le Adhan, on doit bien connaître ses règles avant de le faire bi'idhna azza wa jal. On avait dit aussi des innovations, التسبيح قبل الفجر. التسبيح قبل الفجر. Certains imams, ou bien certains muadhinin, avant de commencer le adhan, un quart d'heure à peu près, ils commencent à faire des sortes de nashid. Moi j'ai entendu une fois quelqu'un, avant de commencer, ils commencent à faire comme un madih, comme on dit par exemple, طالع البدر علينا par exemple, طالع البدر علينا, ils commencent comme ça. C'est pas tala abad, mais il dit quelque chose comme ça, tesbih, comme ça il fait tesbih, ensuite un genre de nashid, ensuite il fait l'adhan. Moi j'ai entendu déjà une fois dans ma vie quelqu'un faire cela. Ça bien sûr c'est dans les innovations. Et troisièmement, ziyadat salat ala nabi wa salam fihi. On avait dit que ça rentre dans l'innovation que lorsque le mu'adhin, lorsqu'il dit ashhadu an la ilaha illallah, ensuite lorsqu'il arrive ashhadu anna muhammadan rasulullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit comme ça en plein adhan. Ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est de la bid'a. Si ça se faisait, le prophète alayhi wa sallam lui-même l'aurait fait, ou bien ceux qui l'aiment plus que nous. Les sahaba qui l'aiment plus que nous, les khulafa rachidun qui l'aiment plus que nous ne l'ont pas fait. C'est pas la peine de prétendre qu'on peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ceux-là ne l'ont aimé. Et malgré cela, ils n'ont pas dit sallallahu alayhi wa sallam dans le Adhan. Naam. Aujourd'hui, on commence quelque chose de très important, la salat. Vous allez voir, bidna ta'ala, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on fait, et ces choses sont fausses. Alors, on commence, inshallah ta'ala, shurut salat, les conditions de la salat. pour faire une salat, il faut des conditions, bien sûr. Il faut des conditions pour faire la salat. La première condition, maintenant, c'est pas la peine de dire, il faut être musulman, il faut être pur, il faut être conscient. Ça, on l'a dit déjà dans, ça fait 3 ou 4 dors avant celui-là. Maintenant, toutes les conditions sont réunies. Il reste seulement quelles sont les conditions de la salat elle-même. Quelles sont les conditions de la salat elle-même. Première condition très importante, du rôle al-waqt. C'est-à-dire que l'heure de la salat soit arrivée, que son moment soit arrivé. On ne peut pas faire la salat avant que son moment entre. Comme, bien sûr, on ne peut pas faire la salat quand son moment se termine. Sauf, bien sûr, comme j'ai dit une fois, si on est excusé. Donc, la salat, comme j'ai dit une fois, j'ai dit que les adorations se divisent en deux grandes sortes. Les adorations qui ont des moments précis et des adorations qu'on peut faire tout le temps. Celles qui ont un moment précis, parmi eux, c'est la salat. Elle a un moment précis, le hajj. On ne peut pas aller au hajj quand on veut, nous. Il y a des jours précis. Le ramadan, on ne peut pas faire le ramadan maintenant. C'est un mois précis. C'est comme ça. La salat, c'est la même chose. Elle a un moment précis où elle commence. Elle a un moment précis où elle se termine. Et chaque salat a un début et a une fin. On l'a montré, on l'a dit, Inch'Allah, dans les doros qui sont passés. Et Allah Azza wa Jal a fait de sorte que il veut que, il veut nous éprouver en nous donnant le temps qu'il y a entre le début de la salat et sa fin. Il veut nous éprouver, est-ce que on va la faire? Il y a le son, barakallah. Non, je vois que ça se coupe et ça se coupe. Est-ce qu'il y a le son maintenant? Est-ce qu'il y a le son maintenant? Ibn Kathir, tafadhal Ibn Kathir, qu'est-ce que tu as à dire? Tafadhal. Qu'est-ce que tu veux, Ibn Kathir? Tafadhal. Il y a le son maintenant. D'accord. Quand ça se coupe, vous m'écrivez 2. Quand ça se coupe, vous m'écrivez 2. Quand il n'y a rien, vous m'écrivez 0. J'ai dit que c'est pour ça que quand on rentre dans la salat, on dit quoi? On dit Allahu Akbar. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand. Plus grand. Naam. Ça veut dire toute chose doit devenir petite. Toute chose doit devenir petite. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand. Naam. Donc ça, c'est la première condition. J'ai dit que comme on ne peut pas faire une salat avant son moment précis, on ne peut pas la faire quand son moment est terminé. Si une salat commence à telle heure et finit à telle heure, on ne peut pas la faire avant l'heure, on ne peut pas aussi la faire après l'heure, sauf si on a des excuses. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Beaucoup de gens croient que c'est permis de faire la salat à n'importe quelle heure. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que chaque salat ait un moment précis pour nous éprouver qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on la fait à l'heure ou on ne la fait pas? Est-ce qu'on insiste et on est soucieux pour la faire ou bien c'est pas un rendez-vous important pour nous? C'est pas un rendez-vous important pour nous. Et comme personne ne peut faire la salat avant l'heure, personne ne peut la faire avant l'heure, après l'heure, pardon, sauf s'il est excusé. Je vous donne un exemple très simple. Maintenant, chez moi, ici, au Koweït, il est presque 22h, moins 5. Maintenant, je ne peux pas faire la salat du sobh, du matin. Je ne peux pas l'avancer. Je vais dire, je vais la faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas valable. Parce que salat du sobh, c'est quand vient son heure après le fajr. Donc, comme je ne peux pas la faire, salat du sobh, maintenant, je ne peux pas aussi la faire après que le soleil se lève. Si je l'ai laissé exprès, si je me suis endormi, je ne me suis pas réveillé, c'est une excuse. Si j'ai oublié, c'est une excuse. Si je me suis évanoui, je ne me suis pas réveillé, c'est une excuse. Si j'ai des excuses. Mais si je reste comme ça, je dis je vais pas faire la prière jusqu'à ce que se lève le soleil, je ne pourrai plus la faire. Ça veut dire que j'ai fait un grand péché et je dois faire quoi? Je dois faire le le repentir, bi'idna azzawajal, comme disent beaucoup de ulama, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Rahmo, ils disent, yani Cheikh Ibn Hazm, Aydan, ils disent, il n'y a pas de salat pour quelqu'un qui n'est pas excusé, qui la laisse comme ça sortir de son moment. Tayyib, la deuxième condition, at-taharatu min al-hadath, on doit être purifié. On doit être purifié de l'hadith. L'hadith, c'est quoi? L'hadith, c'est ce qui sort de nous. Et l'hadith, ça se divise en deux grandes parties. Il y a le petit hadith et il y a le grand. Naam. Le petit hadith, c'est par exemple quand on va aux toilettes, quand on urine, quand on défèque des gaz. Ça, c'est des petits hadiths. Il y a le grand hadith, comme la janaba. Quelqu'un qui se trouve en janaba, il doit faire un lavage majeur. Celui-là, c'est quoi? C'est le grand hadith. Maintenant, nous, pour faire la salat, on doit être pur du petit hadith et du grand. En d'autres termes, pour faire la salat, on doit avoir déjà fait les grandes ablutions sans les avoir annulées par une janaba. Plus de cela, on doit avoir les petites ablutions. On doit avoir les petites ablutions. Là, je l'ai dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salat » Oh, vous, les croyants, si vous vous yani, préparez ou la, vous vous levez pour faire la salat, « Farsilu wujuhakum » Lavez vos visages, « Wa aydiyakum » et vos mains, « ila al-marafiq » jusqu'au coude, « Wamsahu bi ru'usikum » Essuyez votre tête, yani, sur vos cheveux, « Wa arjulakum ila al-ka'bayn » et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes dans un état de janaba, vous faites le rousse. Vous faites le rousse. An Abi Huraira, quel est aussi le délit qu'il faut, les ablutions, quel est le délit qu'il ne faut pas avoir le petit hadith ni le grand. An Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tuqbi. Salatu man ahdatha, vient de dire maintenant, où il n'a pas les grandes. Non, s'il n'a pas les petites ablutions, pas ça se coupe. Je vois que ça se coupe, hein? Je vois que ça se coupe. Est-ce qu'il y a le son? Nous, qui l'avons commencé ces jours-ci, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le son? Naam, ça coupe. Je sors et je reviens, Inch'Allah. Est-ce qu'il est là, Ibn Kathir? Je ne sais pas s'il est là, Ibn Kathir. Est-ce qu'il n'est pas là? Ibn Kathir, naam. Mets le Coran, Inch'Allah Ta'ala, je sors et je reviens. Mets le Coran, je sors et je reviens. Fais saut, barakallahu fikoum. Fais saut. Fais saut. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله طيب إن شاء الله quand il y a pas de saut vous me laissez pas parler comme ça dans le bilbil na'azawajal je parlais du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit نعم il y a un autre hadith où il a dit لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه le prophète عليه السلام a dit dans ce hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il dit hadith bon, il a dit la salat li man la wudu alahu. Il a dit il n'y a pas de salat pour quelqu'un qui n'a pas fait les ablutions. Wa la wudu'a, il n'y a pas d'ablution li man lam yadhkur isma Allah alayh, pour quelqu'un qui ne dit pas bismillah quand il fait le wudu. Donc le prophète alayhi sallam a dit il n'y a pas de salat pour quelqu'un qui n'a pas d'ablution et il n'y a pas d'ablution pour quelqu'un qui n'a pas dit bismillah dans son wudu, qui n'a pas dit bismillah quand il a commencé à faire ses ablutions. Troisièmement, la purification de quoi? Tathiru thawb, la purification des vêtements, ou le badan, la purification du corps, ou le makan, et la purification de l'endroit de la souillure. Donc, on doit se purifier pour qu'il n'y ait pas de la souillure, ni sur nos vêtements, ni sur notre corps, ni à l'endroit où on va faire la prière. On va commencer par, Inch'Allah Ta'ala, la purification des vêtements. Petit A, troisièmement petit A. Amma tathiru thiyabi, fali nassi al-Qur'an. Le délil qu'on doit purifier les vêtements, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, « وَثِيَّابَكَ فَطَهِرْ » Surat al-Mudassir, verset numéro 4, il a dit « Et purifie tes vêtements » ou bien « Et tes vêtements purifiés-les ». Donc, on a un verset en ce qui concerne les vêtements, qu'on doit purifier les vêtements, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on voit qu'il y a une souillure dans, sur le vêtement, on peut pas faire la salat avec. On doit laver la souillure, ensuite rentrer dans la salat. Maintenant, si on est dans la salat, et on se rend compte qu'il y a une souillure, qu'est-ce qu'on fait? On voit. Est-ce que cette chose qui a la souillure s'enlève ou elle ne s'enlève pas? Si elle s'enlève, est-ce que si elle s'enlève, ça gêne dans la salat ou ça gêne pas? Si elle peut être enlevée dans la salat sans jeûner, on l'enlève dans la salat. Exemple, une veste. Il y a une veste, on a remarqué qu'on a de la souillure sur la veste. Dans la salat, on jette la veste. On l'enlève et on la jette et on termine la salat. Mais si elle est sur le khimar, si la femme enlève son khimar, sa salat est annulée. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle sort directement et elle enlève la souillure et elle revient et elle reprend la salat de nouveau. Tayyib. Maintenant les dalils, les hadiths Asma binti Abi Bakr annaha qalat. Le hadith de Asma, la fille de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha, qui a dit: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. Elle a dit, une femme a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, elle a dit: يا رسول الله, ô prophète, أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ يا رسول الله, يعني si l'une de nous, يعني le sang des menstrues touche par exemple un de ses vêtements, qu'est-ce qu'elle doit faire? Si le sang des menstrues touche un vêtement, qu'est-ce qu'elle doit faire? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام a répondu: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. Le prophète a répondu: si jamais le sang touche et que elle jette et elle fait la prière avec. Maintenant, le dédié, quand on est et que on trouve mieux, on doit prendre le temps. Donc, Inch'Allah, ta'ala, qu'elle est, tous disent de. Pourquoi c'est. Bon, je comprends. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas pourquoi ça c'est le la ligne téléphone. J'attends. السلام عليكم. كيف صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. في صوت بإذن الله. نعم. إن شاء الله تعالى. Je crois que cette fois بإذن الله. Peut-être ça va pas s'arrêter. إن شاء الله. Peut-être ça va pas s'arrêter. Parce que je viens de décocher une chose. Attendez pour que je sois sûr que je l'ai décoché. Une seconde, bénisse. Taïb, naam. Une chose, je dois être sûr qu'elle est décochée, c'est tout. Je crois que c'était elle qui faisait les machins. Naam. Alhamdoulilah. Taïb, je lisais. Taïb, je crois qu'Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala, ça va marcher. Peut-être que Inch'Allah, une de vous nous a fait un doua bi'idna azza wa jal. Naam. Maintenant, le dalil. Le dalil. Que, attendez où je me suis arrêté. Maintenant, quel est le dalil que quelqu'un s'il est dans la salat, il doit, et il voit une souillure dans la salat, il doit enlever son vêtement dans la salat. Sauf si, je le répète, sauf si le vêtement, si on l'enlève, il influe sur la salat. Comme le khimar, la femme, si elle voit une souillure dans la salat, sur son khimar, elle ne peut pas l'enlever, car sa salat s'annule. L'homme, il ne peut pas enlever s'il voit une souillure sur son pantalon, s'il n'a pas un kamis sur le pantalon. Et comme ça. Mais si c'est autre chose qu'on peut enlever dans la salat sans influer sur la salat, on doit l'enlever dans la salat, seule chose. Voilà le dalil. Hadith Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qu'a dit ce compagnon Jalil. Il a dit, salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam datayoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidé une fois dans la prière. Falamma kana fi ba'di salatihi. Maintenant, alors qu'il était quelque part dans sa salat, alors qu'il était en train de faire la salat, brusquement, il a enlevé ses chaussures, en plein salat. Il a enlevé ses chaussures, il les a mises à gauche de lui. Pas à droite, pas en face. Les compagnons qui étaient derrière lui, ils ont vu le prophète alayhi salam enlever ses souliers, ils ont enlevé comme lui. Quand il a terminé le prophète alayhi salam sa salat, il a dit, ma balukum alqaytum ni'alakum. Pourquoi vous avez enlevé vos souliers? Alura aynaka alqaytum. Ils ont dit, vu, jeter tes souliers, on les a jetés. On t'a vu jeter ses souliers, tes souliers, on les a jetés. Faqala, il a dit, le prophète alayhi salam a répondu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quant à moi, إن جبريل أتاني جبريل عليه السلام إبنو فأخبرني أن فيه مقدرا جبريل عليه السلام إبنو alors j'étais en plein salat et il m'a appris que mes souliers contenaient de la souillure, mes souliers contenaient de la souillure. Ensuite il a dit فإذا جاء أحدكم من المسجد, si jamais il y a quelqu'un de vous qui vient à la mosquée, فلينظر فين عليه. Avant de rentrer à la mosquée, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ses chaussures par en bas. فَإِنْ رَأَ فِيهِ مَقَادَرًا, s'il trouve de la souillure dans ses souliers, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, فَلْيَمْسَحُمَا وَلْيُسَلِفِهِمَا, il les essuie, il disait, subhanallah, ça se coupe encore, je ne sais pas. Non, dans ce hadith, il y a beaucoup de choses, et il dit, subhanahu wa ta'ala, si je puis dire, il y a beaucoup d'avantages dans ce hadith bi'idhni Allah Azza wa Jal. Naam. On va citer quelques avantages qu'il y a dans le hadith. Donc le premier avantage, c'est que on peut faire la salat avec les souliers, et que ce sont seulement les juifs qui ne font pas la salat dans leurs souliers. Naam. Ce sont les juifs qui ne font pas la salat dans leurs souliers, car le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut les contrarier, il ne faut pas les imiter. Il a dit, eux, ils ne font pas la salat dans les souliers. Faites la salat dans vos souliers. Et nous, quand est-ce qu'on va faire la salat dans nos souliers? On va rentrer à la mosquée avec nos souliers, on va faire la salat sur la moquette avec nos souliers? Maintenant, de nos jours, ça a changé la mosquée. Il n'y a plus comme auparavant, c'était du sable, c'était de la terre, il n'y avait ni tapis ni rien. D'ailleurs, quand il faisait très chaud, ils faisaient le soujoud, la prosternation sur leurs vêtements, sur leur kamis, sur ce qu'on a sur la tête, tellement yani, c'est chaud. Il n'y avait pas la moquette comme de nos jours et les beaux tapis. Donc maintenant, quand est-ce qu'on va faire la salat dans nos souliers? Quand on est par exemple en voyage, et ça se coupe et ça revient. Ça se coupe et ça revient. Peut-être qu'il y a un virus que je dois enlever. Je disais que on peut faire la salade dans les souliers quand on est par exemple en voyage. Ou là on prie dehors, on prie dans un jardin. Ou là, c'est pas la peine d'enlever ses souliers. On prie directement dans les souliers. Qu'on soit des hommes ou là qu'on soit des femmes. Ensuite, on prend un avantage autre. C'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a enlevé ses souliers, il les a mis à gauche. Il les a mis à gauche. Quand on enlève ses souliers, on les met ni à droite ni en face de soi, mais on les met toujours c'est que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, dès qu'ils ont vu le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam enlever les souliers, ils ont enlevé. Donc c'est dire que à quel point les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et voulaient yani l'imiter, voulaient prendre de lui. Yani ils n'ont pas essayé à chercher à comprendre. Ils ont vu qu'il a enlevé les souliers, ils ont enlevé leurs souliers dans la salat. C'est dire, comme je viens de dire, tellement ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tellement ils aimaient l'imiter. Tellement ils aimaient l'imiter. Naam. Yes, est-ce qu'il y a du son? Je dois avoir un virus, c'est sûr, dans le micro. Yes, est-ce qu'il y a le son? Naam. Donc le prophète alayhi wa sallam leur a dit que moi c'est Jibril qui m'a averti que j'avais de la souillure dans mes souliers. Vous, ce n'est pas la peine que yani, vous fassiez exactement ce que fait l'imam si vous n'avez pas le même sebeb. Moi mon sebeb, mon excuse c'est d'avoir de la souillure dans mes souliers. Et vous, quelle est votre excuse? Mais bien sûr, comme je viens de le dire, ils l'ont fait parce que ils aiment beaucoup le prophète alayhi wa sallam et ils veulent l'imiter dans le petit et dans le grand. Naam. Ça, c'est dans quoi? C'est le vêtement quand il a de la souillure. Le vêtement quand il a la souillure, ou bien les souliers, vous avez vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enlevé en plein salat. En plein salat, il a enlevé ses souliers. C'est pour ça que la chose qui s'enlève, on l'enlève dans la salat. Et la chose qui ne s'enlève pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête de la salat, on sort, on va enlever la souillure, et on revient, et on fait la salat de nouveau. On fait la salat de nouveau. Maintenant, les dalils qu'on doit purifier le corps. Il a dit, si on doit purifier les vêtements, alors, yani, qu'en est-il du corps? Non, les vêtements, on doit les purifier, on purifie pas le corps. Yani, ça, c'est contradictoire. Ensuite, il a dit, hadith Anas, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammata 'adab al-qabr minhu. Le prophète alayhi wa sallam il a dit attention, lavez-vous bien après avoir uriné, ou bien lavez-vous bien yani quand vous voyez que vous avez de l'urine sur vos vêtements ou là dans les parties intimes. Il a dit pourquoi? Il a dit la plupart du supplice de la tombe c'est à cause de l'urine. Subhanallah al-azim. Le supplice de la tombe, la plupart, ce n'est pas à cause de l'alcool ou là, c'est à cause de l'urine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est passé une fois devant une tombe, il leur a dit que, devant deux tombes, pardon, il leur a dit, ces deux personnes sont en train d'être châtiées dans la tombe. Ensuite, il a montré pourquoi. Il a dit, l'un des deux, kana la yastanzih min al-bawl. Dans un autre hadith, kana la yastatir min al-bawl. L'un des deux, quand il urinait, il ne se lavait pas, ou bien il ne prenait pas beaucoup de précautions, et il laissait comme ça des choses couler sans bien ni se laver. Surtout ceux qui, par exemple, qui urinent comme ça dans la rue, surtout ceux qui n'ont pas honte, qu'ils font comme ça devant les gens contre un arbre, ou surtout les hommes. Les femmes, elles ne peuvent pas dans la rue, bien sûr, mais les hommes, beaucoup en font cela, et devant les gens, subhanallah, ils ne se cachent même pas devant les gens. Ensuite, s'ils voient yani, quelqu'un le voir ou là, il se cache comme ça très vite, et son pantalon et ses vêtements intérieurs sont pleins d'urine. Celui-là, s'il meurt et ne fait pas le repentir, c'est vraiment grave pour lui dans la tombe. C'est vraiment grave pour lui dans la tombe. On a un autre hadith, hadith Ali, radiallahu ta'ala anhu. Tous les hadiths que je viens de citer sont dans l'Irwa, et sont des hadiths authentiques, bien sûr. Ce hadith, maintenant que je vais citer, c'est hadith Ali, radiallahu ta'ala anhu, où il a dit كنت رجلا مذاعا. Abu Anas, c'est moi, c'est une barakallahu fik, pour que je parle pas dans le vide, c'est tout. Naam. Ibn Tayyib Ali radiallahu ta'ala anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son gendre, le fils de sa fille Fatima radiallahu ta'ala anha, il a dit, j'étais quelqu'un du genre qui, j'étais quelqu'un du genre qui, le liquide, le liquide, quand par exemple quelqu'un joue avec sa femme, l'homme a un liquide qui sort de lui. Ce n'est pas le liquide spermatique, c'est quelqu'un, un autre liquide. Un autre liquide, il s'appelle visqueux, il s'appelle quelque chose comme ça, c'est quand l'homme joue avec sa femme. Il y a quelque chose qui sort de Mahdi. Naam, Mahdi. Ali radiallahu ta'ala anhu a dit, j'étais un homme qui a beaucoup de Mahdi. Naam. Certains hommes ont ce liquide, ont beaucoup ce liquide. Pré-spermatique, le liquide pré-spermatique. Naam. Ce liquide se trouve chez tous les hommes, mais les ulama disent, ou Allah subhanahu wa ta'ala disent que c'est un délil de la virilité. Yani plus un homme est viril, plus il a beaucoup de ce liquide. Ali radiallahu ta'ala nous a dit, j'avais beaucoup ce liquide qui me coulait. فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. Il a dit, moi je ne sais pas quel est son hukm. Est-ce que quand ce liquide sort, je fais les petites ablutions ou là je fais les grandes? Il ne sait pas. Il a dit, j'ai envoyé quelqu'un, et dans un autre hadith c'est Abu Qatada, il a dit, je l'ai envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. Pourquoi c'est pas Ali qui demande, radiallahu ta'ala anhu? Il a dit, moi j'ai honte de demander quelque chose à quelqu'un qui, je suis marié avec sa fille. Je ne peux pas demander à quelqu'un avec lequel, yani j'ai épousé sa fille, je vais lui dire, j'ai des choses qui sortent de moi, et il a dit ça, pour moi je peux passer à Aïb. Il a envoyé donc quelqu'un d'autre pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment fait quelqu'un qui a beaucoup ce liquide qui sort. Le prophète alayhi wa sallam, il lui a dit, tawadda waghsil dhakarak, et dans un autre hadith, waghsiyatik. Il a dit, si quelqu'un, il a ce liquide qui sort de lui, et il doit sortir. Chaque homme, je crois que même la femme, si son mari joue avec elle, elle a ce liquide. Il a dit, si quelqu'un sort de lui ce liquide, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est un homme, il a dit, yatawadda, il fait les ablutions. Naam, waghsil dhakarak. Et avant cela, il doit laver ses parties intimes, d'où le liquide a coulé. Et il doit laver aussi, si c'est un homme, il doit laver ses testicules. Parce que ce liquide-là vient des testicules. Quand on met de l'eau sur cette partie refroidit. Plus la partie est chaude, plus elle fait sortir de liquide. Plus on en met de l'eau, plus l'eau est froide, plus elle refroidit la partie, et plus l'eau, le liquide qu'il y a à l'intérieur, ne coulera pas beaucoup. Donc le prophète a.s. a dit, celui qui a ce liquide, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les ablutions. Si c'est un homme, il lave aussi ses testicules. Si c'est une femme, elle lave seulement ses parties intimes, doit couler ce liquide, et elle fait les petites ablutions. Ça, c'est en ce qui concerne le corps. Maintenant, ce qui concerne le makan. Maintenant, ce qui concerne l'endroit où on va faire la prière. Quel est le délil qu'on doit, yani, laver l'endroit qui, ou plutôt, c'est pas laver, yani, qui doit être propre, et ne doit pas contenir de souillure. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رش الذنوب على بول الأعرابي كما في حديث أبي هريرة ولا حديث كي مونتر كو حديث طون البخاري كي مونتر كو autant du prophète صلى الله عليه وسلم quelqu'un est venu de la campagne et il est rentré à la mosquée, ensuite il est allé dans un coin de la mosquée, il a commencé à uriner. Pourquoi? Il était nouveau en islam, nouveau, il sait pas que yani, ça se fait pas comme ça, yani, dans une mosquée. Bien sûr, il était dans un coin assez seul, tourné, il donnait son dos aux gens, mais quand même, il était à l'intérieur de la mosquée. Fasara nas yaqa'ubi. Les gens, quand ils l'ont vu faire comme ça, les compagnons, radiallahu ta'ala, yani, ils sont levés, yani, pour, ou bien frapper, ou bien, yani, tellement, ils avaient de la jalousie du din. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, La tuzrimuh, ne lui coupez pas son urine. Laissez-le terminer. La tuzrimuh, laissez-le terminer. Ensuite, dans un autre hadith, il a dit, da'ouh, laissez-le. Wa ahriqu ala bawli dhanubin min ma, ou sajl, et jetez un bidon d'eau sur la partie où il a uriné. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Yani, vous avez été envoyés comme des gens qui facilitent aux gens. C'est pas des gens qui rendent toutes les choses difficiles. Regardez comment nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam la da'wa avec les gens. Regardez, imaginez que quelqu'un rentre et yani, va uriner dans la mosquée. Imaginez quelle a été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de dire laissez-le continuer. Laissez-le. Pourquoi? Quand quelqu'un ne sait pas, il y a une grande différence entre quelqu'un qui ne sait pas et quelqu'un qui sait qui fait exprès. Celui qui ne sait pas, si tu ne lui montres pas avec douceur, avec sagesse, il risque quoi? Il risque de fuir de l'islam. Imaginez que quelqu'un se trompe et que les gens se lèvent et par exemple le frappent. Il va jurer par Allah, le plus puissant, qu'il ne viendra jamais à la mosquée ou qu'il ne fera plus la prière. Non, beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils réagissent. Mais, pour aller toujours doucement avec les gens, surtout avec celui qui ne sait pas. Surtout avec celui qui ne sait pas. Plus grave que cela, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, quand il était en Syrie, il est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de retour de son voyage, il est allé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire, salam alaykum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prosternation devant ses pieds. Subhanallah al-Azim. Il a fait un sujoud. Le prophète Aïssam lui a dit, Mahamalak ala, pourquoi tu fais cela? Il a dit, j'ai vu les gens là-bas où j'étais en Syrie, ils faisaient comme ça pour leur curé et leur prêtre. Et toi, subhanallah al-Azim, toi tu es mieux, les autres ils sont dans quelque chose de faux. C'est-à-dire toi, yani, s'il y a quelqu'un auquel on fait un sujoud, c'est toi. Le prophète Aïssam lui a dit, non, ça se fait pas ça. Ça ne se fait pas. S'il y avait quelqu'un à qui je devais dire de faire une prosternation à une autre personne, j'aurais dit à la femme de faire une prosternation à son époux, à l'épouse de faire une prosternation à son époux. Ça, si je devais dire à une personne. Mais jamais une personne ne doit faire une prosternation à une autre personne. Maintenant, si les takfiriyoun, s'ils étaient présents, ils auraient dit Mu'ad ibn Jabal, c'est un kafir. Naam, il a fait une prosternation. Naam, mais la prosternation ne se fait qu'à Allah. Celui-là, il s'est prosterné. Ça, c'est un kafir, ul'ayadu billah. Naam, comme ça, les takfiriyons qui n'ont pas de base et qui n'ont pas de règles et qui ne savent pas que faire le haram, c'est une chose, et est-ce que ce haram s'applique à la personne ou bien ne s'applique pas? Naam, l'alcool, c'est haram l'alcool. Mais la personne qui a bu l'alcool, ça s'applique à elle le haram ou ne s'applique pas? Comment cela? Ça veut dire c'est elle que c'est haram? L'a-t-elle fait exprès ou elle a oublié? Elle s'est trompée, elle a cru que c'est de l'eau ou elle a bu exprès? Elle sait que c'est haram, elle sait pas. Et des choses comme ça. Donc le haram c'est une chose, et l'appliquer sur la personne, il faut que la personne remplisse les conditions et qu'elle n'ait pas d'excuses. Il y a deux choses. Il y a prouver que cette chose est haram, ne pas dire de sa tête comme ça, cette chose est haram, cette chose est bid'a, cette chose. Il faut avoir un délit que la chose est haram. Tayyib, tu as le délit que c'est haram. Et ensuite, on voit la personne qui a fait le haram. Est-ce qu'elle a réuni les conditions? Elle est pubère, elle est consciente. Son esprit est avec elle, elle n'a pas oublié, elle sait que c'est haram. Voilà les conditions. Et est-ce qu'elle n'a pas d'excuses? Les excuses, des fois, elle est forcée. Quelqu'un, on le force avec un revolver sur le tympan, on lui dit, tu insultes Allah. Parce que celui-là, il est kafir. Alors que dans son cœur, il sait que c'est pas vrai. Il sait qu'il le dit seulement parce qu'il est forcé. Est-ce que celui-là, il devient kafir? Al-Muhim li takfiriyoun, Allah subhanahu wa ta'ala yu'afiyana minhum. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici? Naam. Alors, il a dit, inna ma bu'ithum. Moïse, Allah Azza wa Jal vous a envoyé pour faciliter et non pas pour yani, faire des difficultés et pour faire fuir des gens. Comme il a dit dans un hadith, wa inna minkum la munafirin. Dans un autre hadith, il a dit, il y a de vous des gens qui font fuir les gens. Il y a de vous des gens qui font fuir. Ça, il a dit autant des compagnons qui étaient, masha'Allah, dans le ilm et dans la piété. Qu'en est-il, par exemple, de nos jours? Tamallah, il n'y a pas de sang. Tamallah dit qu'il n'y a pas de sang. Alors, qu'en est-il de nos jours où il n'y a ni in, il y a beaucoup moins de in et beaucoup moins de piété? Quatrième condition, Sitru al-awra. Quatrième condition, pour faire la prière, on doit cacher la awra. On doit cacher la awra. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Yani Allah Azza wa Jalla a dit aux êtres humains ou là aux mes serviteurs ou là, yani, prenez votre parure dans chaque salat et dans chaque tawaf, quand vous faites le tawaf aussi. Pourquoi? Parce que ce verset, justement, est descendu. Pourquoi? Parce que la femme autrefois, la femme avant l'islam, elle tournait autour de la Kaaba toute nue. Elle tournait autour de la Kaaba toute nue. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir l'islam et a révélé ce verset. Prenez votre parure dans chaque salat et dans chaque tawaf. Ça veut dire, personne ne peut plus jamais tourner autour de la Kaaba nu. Parce que même les hommes tournent nus. Non. Maintenant, l'islam est venu. Tu dois prendre la parure avant de tourner devant la Kaaba et prendre la parure avant de rentrer dans la salat. Donc, vous savez que personne ne peut faire une salat sans avoir caché sa aura. Maintenant, on va parler un peu de la aura de l'homme et de la aura de la femme. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, al-Rahmatullah, a dit dans son livre Hijab al-Mar'a wa libasuha fi salat. Cheikh l'Islam a un livre qui s'appelle Le Hijab de la femme et comment qu'elle s'habille dans la salat. Il a dit, page 23, wa fi salati naw'un thalith. Il a dit, il y a une troisième sorte de aura et qui doit être cachée par les vêtements. C'est quoi? Il a dit, fa inna al-mar'a law sallat wahdaha. Il a dit, si la femme priait seule, elle est dans une chambre, elle est seule, il n'y a personne avec elle, كانت مأمورة بالإختمار. Elle doit se couvrir la tête avec un foulard. Non, une femme seule ne dit pas, je suis seule, il n'y a personne qui me voit. Yani, donc c'est permis, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'étranger. D'ailleurs, même mon mari n'est pas là, personne ne me voit, donc je fais la salade sans le khimar. Va? On lui dit, tu t'es trompé, la salat est nulle. La salat est nulle. Donc, il a dit, كانت المرأة مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها. Et quand elle n'est pas dans la salat, il lui est permis de montrer ses cheveux quand elle est dans sa maison. Elle montre à son mari, à ses enfants, à son père, à son grand-père, à son oncle, au fils de ses sœurs, fils de ses frères. En fait, quelle est la règle pour savoir la femme, pour qu'elle sache est-ce qu'elle doit montrer ses cheveux à cette personne ou elle ne doit pas montrer. Et aussi, pour savoir est-ce qu'elle peut tendre la main à cette personne ou elle ne peut pas. Elle peut par exemple l'embrasser sur les joues ou elle ne peut pas. La même chose pour l'homme. Est-ce qu'il peut tendre la main à cette femme ou elle ne peut pas. C'est quoi la règle? Très très simple. Chaque personne, si tu peux te marier avec elle, c'est une étrangère pour toi. Tu ne peux pas lui tendre ta main, encore moins l'embrasser. Et la femme ne peut pas lui montrer ses cheveux, ni autre chose, sauf ceux qui disent qu'elle peut montrer son visage. Donc, c'est quoi la règle? Toute personne avec laquelle je peux me marier, c'est une étrangère pour moi, je dois me cacher. Par exemple, un homme a épousé une femme, et sa femme a sa sœur. Est-ce que sa sœur, Tant qu'il a la première femme, il ne peut pas épouser sa sœur. Vous savez ça. Il ne peut pas épouser sa sœur jusqu'à ce que sa femme meure ou là, il divorce sa femme. Et quand il divorce sa femme, il ne peut pas épouser sa sœur aussi jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que sa femme, la première, termine sa période de viduité. Non, c'est pour ça, si jamais on vous pose cette question, on vous dit... C'est une question drôle, mais elle a une réponse. Ça peut être une sorte de devinette. Si jamais on vous dit une fois, quand est-ce que l'homme doit faire la période de viduité? Ça, on sait que c'est la femme qui a la période de viduité. On va vous dire, quand est-ce que l'homme doit faire une période de viduité? La réponse sera, s'il est marié avec une femme, et que sa femme, il a divorcé par exemple, ou elle est morte, et qu'il va épouser, par exemple, sa sœur, ou bien sa tante, ou bien ammatoua, khalatoua ou ammatoua. Dans ce cas, il ne peut pas. Il doit attendre jusqu'à ce que la période de viduité se termine pour qu'il puisse épouser sa sœur ou bien sa tante ou bien Ammatoua. Naam, c'est le cas où l'homme a une période de viduité. Tout ça, je le disais que, donc la femme, subhanallah al-azim, la femme, dans la salat, elle doit cacher sa tête. Et hors salat, elle peut montrer sa tête, peut montrer ses cheveux, je veux dire. À qui, bien sûr, à son mari, à ses enfants, etc. Il a dit, pourquoi ? فَأَخْذُوا الزِّينَ فِي الصَّلَاةِ لِحَقِّ اللَّهِ Naam. Le fait de se couvrir la tête dans la salat, c'est un droit. Un droit de qui ? De Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisqu'Allah est toujours avec toi, donc où tu es, tu dois couvrir ta tête. Tu ne dis pas, je suis seul, je peux donc faire la prière à tête découverte. Tu ne peux pas. Un cheveu découvert, tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que c'est un droit d'Allah, ce n'est pas des hommes. Si c'était un droit des hommes, d'accord, il n'y a personne avec toi, tu enlèves. Là, c'est un droit d'Allah, donc tu dois cacher tes cheveux. Et le khimar hors salat, c'est un droit des gens. Devant les gens étrangers, tu ne peux pas montrer tes cheveux. Non. Mais une fois j'ai entendu une sœur dire, on m'a rapporté qu'une sœur, Miskina Hadi, Miskina, Ibn Kathir, est-ce qu'il y a le sang ? Ibn Kathir, est-ce qu'il y a le sang ? Pour être sûr, inshallah ta'ala, de ce que je dis, je ne parle pas dans le vide. Est-ce qu'il y a le sang ? Naam. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Une fois, une sœur, enfin, ma femme m'a dit, il y a une sœur qui, dans ma maison, elle dit, c'est interdit d'enlever le foulard. Allahu Akbar. Pourquoi dans la maison c'est interdit d'enlever le foulard ? Elle l'a dit, parce qu'il y a les anges qui nous voient. Il y a les anges qui nous voient, donc on doit se couvrir le visage et les cheveux. Je crois que je me suis trompé, j'ai dit le visage. Elle a dit, dans la maison, on doit se couvrir les cheveux. Naam. Pourquoi ? Elle a dit, parce qu'il y a des anges qui nous voient. Donc elle était tout le temps avec le foulard et ne l'enlevait jamais dans la maison. Bien sûr, après Binna Azzawajal, on lui a montré que ça, ça ne s'est jamais fait, que c'est une bid'a et qu'il n'y a aucun dalil qui dit cela. La femme, quand elle est à la maison avec son mari, ses enfants et ses maharim, elle peut montrer bi'idna azawajal ses cheveux. Ensuite, il a dit فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَرْيَانًا وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ. La même chose pour le tawaf de la Kaaba. On veut tourner autour de la Kaaba. C'est le droit d'Allah ou là c'est le droit des gens ? C'est le droit d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire le droit d'Allah ? Ça veut dire même si tu es seul, il n'y a personne avec toi dans la Kaaba, entre parenthèses, qui est impossible que tu sois seul dans la Kaaba, mais c'est une supposition. Supposons que tu sois seul dans la Kaaba, il n'y a personne qui est en train de voir, tu n'as pas le droit de tourner autour de la Kaaba en montrant ta aura. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un droit d'Allah et ce n'est pas le droit des gens. Il a dit, « وَلَا يُصَلِّ عُرْيَانٍ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ » Une personne qui est seule dans la maison, parce qu'il dit, puisque je suis seul, il n'y a personne qui me voit, je vais faire la prière tout nu. Il ne peut pas. C'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf bien sûr quoi ? Sauf darura. Sauf s'il est dans, il n'a pas d'issue. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, on l'a emprisonné. Il est dans la cellule tout seul. Et plus que cela, on lui a enlevé ses vêtements, il est tout nu. Maintenant, c'est l'heure de la prière. Qu'est-ce qu'il fait ? Ou bien il l'a fait nu, ou bien il ne va pas la faire, il va rester sans prière un mois, deux mois, 10 ans, je ne sais pas combien, en prison. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la prière nu. Naam. Pourquoi ? Parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Parce que il n'a pas trouvé les vêtements et il a dit, je ne les mets pas. Celui-là, il n'a pas de vêtements. Naam. La taklifa illa bimakdoul. Il ne peut pas construire des vêtements dans la prison, ni encore moins les créer. Donc, il n'a pas d'issue. Il ne lui reste qu'une seule issue, c'est de faire la prière comme ça. C'est pour ça que les ulama, Ibn Taymiyyah et les autres, même Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, c'est même possible que quelqu'un, s'ils sont un groupe, ils sont tous nus dans une prison, ils sont tous nus, ils sont 5, 6, il est possible qu'ils fassent la prière en groupe. Naam. Mais ils ont dit, celui qui les guide, il ne va pas devant eux. Il reste au milieu, comme fait une femme lorsqu'elle guide un groupe de femmes. Une femme quand elle guide un groupe de femmes dans la prière, elle sort pas, elle reste au milieu d'elles. La même chose ici, ils sont tous nus, donc pour qu'ils soient pas comme ça visibles, ils restent au milieu d'eux et ils sont tous nus, ils peuvent rien faire et ils font la prière en groupe. Il a dit Cheikh الإسلام على رحمة الله فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن الناس. Il a dit donc prendre la parure dans la salat en ce qui concerne la femme, ce n'est pas à cause des hommes, ce n'est pas elle met le foulard parce qu'il y a les hommes, non, elle met le foulard parce que Allah a demandé de mettre le foulard, qu'il y ait les hommes ou qu'il n'y ait pas, elle doit le mettre. Donc c'est une quoi, c'est un droit haq Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas haq les gens. وحين إذن et alors par conséquent فَقَدْ يَسْتُرُ الْمُصَلِّ فِي الصَّلَاةِ مَا يَجُوزُ إِبْدَأُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ. Et par conséquent donc, Cheikh l'Islam dit, et par conséquent donc quelqu'un des fois il est obligé de cacher dans la salat ce qui est permis hors salat. Naam, des fois c'est le contraire maintenant, des fois on est obligé de cacher dans la salat des choses qui sont permises hors de la salat. Il a dit وَقَدْ يُبْدِي فِي الصَّلَةِ مَا يَسْتُرُ عَنَ الرِّجَالِ. Et des fois il montre dans la salat ce qu'il ne doit pas montrer s'il était avec des gens. Je vois maintenant c'est le contraire, des fois tu caches, on cache dans la salat, on cache yani ce qui est permis de montrer, et des fois on montre ce qu'on doit cacher. Je vais donner un exemple très bien pour montrer. Il a dit le premier cas, c'est-à-dire ce qu'on doit cacher, on doit cacher des choses qu'on peut montrer hors salat. C'est quoi? Mitlul menkibayn, afoun. Les épaules. Regardez les épaules. Par rapport à l'homme. Un homme qui est assis avec des hommes. Est-ce qu'il peut montrer ses épaules ou là il ne peut pas? Il peut. Les épaules, ce n'est pas une aura, un homme avec un homme. Il lui montre ses épaules, ce n'est pas aura. Naam. Il ne montre pas ses épaules. Quand je dis des épaules, ça veut dire le torse, torse nu. Un homme torse nu avec des hommes, ce n'est pas interdit, ce n'est pas la aura. Un homme torse nu avec les femmes, ça ne se fait pas. Yani, il doit se cracher devant une femme. Il n'y a pas un délit comme ça très clair, mais pour ne pas faire la fitna. Mais homme avec homme, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, quand il est dans la salat, فإن النبي صلى الله عليه وسلم le prophète عليه السلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق الصلاة ولا يجوز له كشف المنكبين للرجل خارج الصلاة. سبحان الله العظيم. Un homme quand il est dans la salat, il est obligé de cacher ses épaules, et quand il est hors salat il n'est pas obligé. Non. Donc des choses qui sont permises hors salat comme montrer ses épaules à l'homme, montrer son torse, devient interdit quand il est dans la salate. Quand il est dans la salate, un homme, s'il fait la prière avec les épaules découvertes, sa prière est nulle. Sa prière est nulle, bien sûr, sauf si, comme je viens de dire, il est obligé. Hein, comme je viens de dire, quelqu'un qui est nu dans la prison. On ne parle pas de la daroura. On ne parle pas de cas spécial, un cas spécial. On parle en général. Qu'un homme peut se couvrir les épaules, et il a dit ici chêtre les autres ils entendent c'est toi seulement qui n'entends pas ça vient et ça part, je ne sais pas comment qu'on doit faire. Donc on termine comme ça, Bidla Azzawajal, il n'y a pas de nam. J'ai pas d'autre solution, peut-être qu'il y a un virus là, je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas d'autre solution. Naam. طيب الحين ما شاء الله. ما يجب على الرجل ستره عند الصلاة. Que doit cacher l'homme quand il va faire la salat? On parle de que doit cacher l'homme, ensuite que doit cacher la femme quand elle fait la salat. يجب ستره القبول والدبر. L'homme quand il veut faire la prière, il doit d'abord se cacher les parties intimes, par devant, par arrière. Naam. Wa ja'a fi ba'd an-nusus, il y a des textes ma yadullu ala annahu yajibu 'ala al-musalli an yastura min badani ma laysa bi'awra. Et il y a des textes authentiques où il est dit que celui qui fait la prière, qui est homme, doit même cacher des choses qui ne sont pas awra, des choses qui ne sont pas awra. Comme dans le hadith Bouraïda, comme dans le hadith de Bouraïda, radiallahu ta'ala anhu, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Naha al Rasulullah, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a interdit an yusalli ar-rajulu fi dihafin wahid. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a interdit à une personne qu'elle fasse la prière dans un seul drap, disons l'ihaf, un seul drap. Par exemple, autrefois, il n'y avait pas les vêtements, etc. Quelqu'un prenait par exemple un drap, il le mettait par exemple, comme on met par exemple sur les hanches. Il le met sur les hanches, il se couvre les hanches, des hanches jusqu'en bas par exemple, jusqu'aux chevilles, et il fait la prière torse nu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette salat. Naam. لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل ليس عليه رداء et نهى aussi il a interdit que il fasse la salat l'homme il fasse la salat dans des pantalons sans avoir couvert le buste sans avoir une cape sur le buste donc en principe en islam on doit faire la salat pour l'homme avec deux choses quelque chose qui couvre du nombril jusqu'en bas et quelque chose qui couvre des épaules jusqu'au nombril. Deux choses. Disons deux draps, deux vêtements. Un vêtement pour le bas et un vêtement pour le haut. Parce que beaucoup d'hommes ne savent pas, ils font la prière torse nu. Surtout quand ils sont à la plage, c'est l'heure de la prière, ils viennent directement comme ça torse nu et il fait la prière. Il ne sait pas qu'il y a un hadith qui dit qu'il doit se couvrir les épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, bon bien sûr ce hadith c'est Khalajou Abu Daoud wa Isnadou Hassan. Et ce hadith que je viens dire maintenant, que je vais dire, le prophète alayhi wa sallam a dit La yusalliyin ahadukum fi thawbi al-wahid laysa ala atiqihi wa fi riwaya laysa ala mankibayhi minhu shay. Un hadith très clair. Qu'a dit le prophète alayhi wa sallam? Il a dit, c'est un hadith de Bukhari Muslim, il a dit que personne ne fasse la salat avec un seul vêtement ou un seul drap et en n'ayant rien sur son cou et dans un autre hadith en n'ayant rien sur ses épaules. Ça veut dire que, parce qu'il y a d'autres hadiths où il est dit que le prophète alayhi sallam a permis de faire la salat avec un seul drap, un seul. Donc comment qu'on va joindre entre les deux hadiths? On va dire ça, si on a un drap mais il est assez grand de façon à ce que on puisse se couvrir les épaules et ses cuisses et en bas. Masha'Allah. Yani on a un drap yani assez large et masha'Allah, on se couvre des épaules et on descend jusqu'aux chevilles. Naam, ça ne fait rien. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Que le prophète alayhi sallam a permis de faire la salat avec un drap. Un drap qui couvre les épaules. Qui couvre, naam. Parce qu'il y a l'autre hadith qui dit, il n'y a pas de salat. Il n'y a pas de salat si tu ne couvres pas. Les épaules, il faut deux vêtements. Et puis ce hadith a dit il faut seulement un nom, la cuisse. Il va dire est-ce que la cuisse c'est une aura ou c'est pas une aura pour l'homme? Est-ce que la cuisse c'est une aura ou ce n'est pas une aura pour l'homme? An Aisha radiallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutaji'an. D'après Aisha radiallahu ta'ala anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé. كشفن عن فخذيه اي سي دو كويس ايتي فيزيبل. استأذن ابو بكر الصديق افرابي على بورت يبولي رونتري فاذن له وهو على تلك الحال. لو بروفيت صلى الله عليه وسلم لو ا بيرمي دونتري اي سان كاشي سي كويس سان لي كاشي. ثم استأذن عمر انسويت عمر ا دوموندي لا بيرميسيون دو رونتري فاذن له وهو كذلك الا ليسي اونتري سان سو كاشي سي كويس توجور découverte sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit fatahaddatha, ils ont parlé assez parlé. Ensuite il a dit thumma sta'dana Uthman, ensuite Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a demandé la permission. Il a dit fajalasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusawwi thiyabahu. Alors dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que Uthman allait rentrer, il s'est assis et il a commencé à descendre yani ses vêtements, peut-être son kamis, de descendre pour cacher ses cuisses qui étaient visibles, ces belles cuisses sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib il a dit فلما خرج ensuite lorsque Othman est sorti قالت عائشة عائشة دي يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فلم تجلس ثم دخل عليك عثمان فجلست وسويت في ثيابك يا رسول الله j'ai remarqué une chose quand Abu Bakr est rentré ou là Omar tu ne t'es pas caché tu es resté allongé tes cuisses visibles quand Othman a demandé la permission tu t'es assis et tu as commencé à cracher tes cuisses qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ألا استحي ممن تستحي منه الملائكة ne dois-je pas avoir honte ou être pudique de quelqu'un dont les anges ont honte les anges ont honte de Othman ibn Affan quand ils le voient et moi yani ne dois-je pas aussi avoir honte de lui et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est caché donc autre chose certains se sont basés sur ce hadith pour dire quoi pour dire que donc c'est une preuve que yani les cuisses ne sont pas une aura car si c'était aura c'est haram comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait montré ses cuisses devant Abu Bakr et devant Uthman radiyallahu ta'ala anhu et c'est d'après Ibn Hazm qui dit que la cuisse n'est pas aura c'est d'après lui voilà le délit Naam, d'après lui, voilà le délit que la cuisse n'est pas aura. Il a dit car il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne montre yani, quelque chose de haram. Il est impossible qu'il montre quelque chose de aura aux compagnons. Il a dit donc ça, c'est une preuve que quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les cuisses de l'homme, une cuisse de l'homme par rapport à l'homme, ce n'est pas aura et on peut la montrer. Ensuite, il y a le hadith, le deuxième hadith qui prouve que la cuisse n'est pas aura et qu'on peut la montrer devant un homme, c'est hadith Abi al-Aliya al-Barra radiyallahu ta'ala anhu qala qultu li Abdillah ibn Samit nusalli yawm al-jumu'a khalfa umara fayu'akhirun salat. Un compagnon radiyallahu ta'ala anhu a dit à Abdullah ibn Samit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit on fait la prière derrière certains yani gouverneurs. Certains gouverneurs, mais yani, ils ne font pas la salat à l'heure. Par exemple, le Adhan, qui a 13 heures, ils la font à 15 heures. Comment yani, on va faire? Qu'a répondu l'autre? Il a dit, Fadaraba Fahide. Il a dit, il m'a frappé la cuisse, Darbatin Oja'atni, d'une façon assez forte, au point où ça m'a fait mal. Il m'a frappé la cuisse d'une façon assez mal, assez forte, au point où ça m'a fait mal. Waqal, et il a dit, سألت أبا ذر عن ذلك. Il a dit, j'ai demandé la même chose à Abu Dhar. فضرب فخذي. Et il m'a frappé aussi sur la cuisse. Et Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu m'a dit, j'ai demandé la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a frappé sur la cuisse. Donc, ça s'appelle le hadith Mousselsel. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit quelque chose, et en même temps il fait un geste, et ensuite le sahabi, quand il va narrer, il va raconter ce problème, il va rapporter ce hadith, il va le dire en même temps, il va faire le même geste. Si le prophète Hassan a ri, il va rire. Si le prophète Hassan a frappé quelqu'un, il le frappe quand il le dit. Ça s'appelle le hadith Mousselsel. Ici, c'est la même chose. Donc, le dit, il n'y a pas de son. Il a dit, le délil, que la cuisse non, le délit que la cuisse n'est pas une aura c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé la cuisse de quelqu'un il a dit si c'est une aura on frappait pas la aura de quelqu'un ensuite il a dit aussi c'est comme par exemple les parties intimes de quelqu'un est-ce qu'un homme en jouant avec quelqu'un en plaisantant il peut le frapper dans ses parties intimes en train de jouer. Il lui fait comme ça une tape, par exemple, sur ses parties intimes. Il ne peut pas, c'est interdit. Ni par devant, ni par arrière, il peut le frapper. Pourquoi? Parce que c'est aura. On ne peut pas toucher la aura de quelqu'un. Il a dit, mais puisque le prophète al-Islam a frappé quelqu'un comme ça sur sa partie intime, ça veut dire que cette partie n'est pas aura. Donc, le prophète al-Islam n'a pas frappé sur la partie intime, il a frappé sur la cuisse. Il a dit donc, c'est une preuve que la cuisse n'est pas aura. Voilà leurs deux dalils. Ensuite, ceux qui ont dit que la cuisse c'est une aura, se sont basés sur certaines choses. Je les résume très vite. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est une fois passé devant Ma'mar. Ma'mar, un compagnon djalil, il est passé devant lui et il avait les cuisses découvertes. Ce compagnon avait les cuisses découvertes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Ma'mar, ghatti fakhidayk, Ya Ma'mar, cache tes cuisses. Fa inna al-fakhidayn awra. Oh Ma'mar, cache tes cuisses. Les cuisses sont awra. Les cuisses sont haram, on ne peut pas les voir. Et c'est un hadith. Akhrajahu Ahmed. وغيره اسناده ضعيف لكن يتقوى بغيره. Il a dit, la base de ce hadith est faible, mais il devient bon quand on le colle à d'autres hadiths. Et le deuxième hadith aussi, c'est An Jarhad. Il a dit, marra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est passé, wa aliya burda, et j'avais une cape, et j'avais une cuisse qui était découverte. Il m'a dit, ghatti fakhidak, fa inna al-fakhida awra. Le prophète alayhi salam m'a dit, cache ta cuisse. La cuisse, c'est une awra. Il a dit aussi, ce hadith ici, il a dit, ce hadith est faible. Il a dit, walakin. Maintenant, qu'on a des hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré d'une part ses cuisses, et on a des hadiths d'autre part qui disent la cuisse est aura, il faut la cacher. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a deux hadiths qui apparemment sont contradictoires? Alhamdulillah, il n'y a jamais dans les hadiths deux hadiths contradictoires. Ça c'est jamais vu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a deux hadiths contradictoires, ça veut dire que l'un des deux hadiths n'est pas vrai, il est faux, ou bien l'un des deux hadiths a été abrogé, ou bien l'un des deux hadiths c'est pas ça son sens, car la contradiction ne peut exister que dans nos têtes, elle ne peut jamais exister dans le Coran et jamais dans la sunna. Par la sunna c'est d'Allah et le Coran c'est d'Allah. Jamais il ne parle de ses passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle jamais avant que Jibril ne lui dise ce qu'il doit dire dans le dîn. Donc il n'y a jamais de contradiction. Maintenant, si on a des hadiths qui apparemment se contredisent, qu'est-ce qu'on fait? On essaye dans la première étape de grouper entre les deux hadiths si on peut. Si on peut grouper, on doit grouper. Si on ne peut pas, on essaye de voir la date. Quel est le hadith qui est venu après l'autre? Et le dernier hadith, on dit, il a abrogé celui qui était avant lui. Ça, il l'a annulé parce qu'il est venu après lui. Et si on ne connaît pas la date, qu'est-ce qu'on fait? On fait tarjih. On choisit un des deux hadiths. Pourquoi? Il y a des causes de tarjih. Par exemple, ce hadith il est chez Bukhari et ce hadith est chez Muslim. Il y a contradiction. On prend celui de Bukhari. Ce hadith est chez Muslim. Ce hadith est chez Tirmidhi. On prend celui de Muslim. Comme ça, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on fait le tarjih. Si on ne peut pas, on va à la quatrième étape. C'est quoi? C'est tawakuf. On s'arrête. On dit, dans cette chose-là, je ne prends ni avec ce hadith, ni avec ce hadith. Donc, il y a des étapes. La première étape, je venais de dire, c'est quoi? C'est d'essayer de joindre entre les deux hadiths. Pourquoi? Car dans Ilm al-Usul, on dit, al-i'mal awla min al-ihmal. Al-i'mal awla min al-ihmal. Quand tu joins, si tu peux joindre entre les deux hadiths, masha'Allah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait travailler deux hadiths, masha'Allah. Mais si tu choisis un seul, tu fais le tarjih, c'est-à-dire que tu as mis un hadith de côté. Et un hadith, il comprend, masha'Allah, d'avantages et de règles, etc., tu l'as mis de côté. Mais si tu peux joindre entre deux hadiths et les faire marcher ensemble, masha'Allah. Je donne un exemple. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'une chose, par exemple, il dit, ne la mangez pas. Supposons. Ensuite, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé cette chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on peut joindre, on joint. Comment on joint? On dit, c'est simple. Puisqu'il a dit ne mangez pas, ensuite il a mangé, ça veut dire que ce n'est pas haram. C'est seulement makruh. Si c'était haram, comment le prophète Aslam aurait mangé. Donc, s'il a dit ne mangez pas, ensuite s'il a mangé, on dit quoi? On dit en groupe en disant que manger cette chose n'est pas haram, c'est seulement makruh. D'ailleurs, la preuve c'est qu'il a mangé. Mais d'autres ulama, c'est Cheikh Ibn Uthaymin qui dit comme ça par exemple, cette règle comme ça. Mais comme Cheikh Oukani par exemple, il dit non. S'il y a deux hadiths qui se contredisent, je prends toujours quoi? Je prends ce qu'a dit le prophète alayhi salam, ce qu'il a dit et non pas ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a dit, il nous l'a dit pour nous. Et ce qu'il a fait, ça peut être spécial pour lui. Car par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut nous interdire de nous marier avec plus de 4 femmes. Et lui, il se marie avec 9. Il nous interdit de jeûner plus de minuit. Quand tu jeûnes, tu peux jeûner jusqu'au milieu de la nuit, c'est tout. Tu ne peux pas dépasser. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 13, 14, 15 jours, yani, sans s'arrêter. Donc lui, il peut te dire, ne fais pas cette chose, et lui, il peut faire des choses, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, vous avez remarqué, on a des hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ses cuisses, et des hadiths où il dit, ne montrez pas vos cuisses. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, nous, on va prendre avec le hadith qui nous a dit quoi? Qui nous a dit, ne montrez pas vos cuisses. Pour quelle raison? Il a dit, première raison. Parce que le hadith qui a dit, ne montrez pas, c'est un hadith qui interdit. Il dit, ne montrez pas. Et le deuxième hadith qui montrait, où le prophète a montré sa cuisse, c'est un hadith qui permet. Alors quand on a deux hadiths qui se contredisent, un hadith ne permet pas, interdit, et un hadith permet, qu'est-ce qu'on fait? On prend avec celui qui ne permet pas. Naam, al-hadir muqaddam al-mubih. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, en général, toute chose est permise. Et maintenant, il y a un hadith qui est interdit. Donc, on prend avec le hadith qui est interdit. Car si on prenait avec le hadith qui permettait, toute chose est permise. On n'a rien appris. Ce hadith nous a dit que telle chose est permise. Tout est permis. Tout ce qu'Allah Ta'ala a créé est permis. Pourquoi tu me dis ça? Mais le hadith qui m'intéresse, c'est celui qui m'a interdit. Car l'interdiction, c'est quelque chose de nouveau qui est venu. C'est une nouvelle sharia qui est venue pour interdire. Donc, Cheikh Al-Albani ici a dit, j'ai un hadith qui dit que le prophète alayhi wa sallam a montré ses cuisses. J'ai un hadith qui a dit, ne montre pas. Il a dit, je prends avec, ne montre pas. Pourquoi? Parce que l'interdiction doit dévancer. La deuxième règle, Naam, je sens qu'il y a maintenant, est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son maintenant? Naam, la première règle, je venais de dire que la chose qui est interdite, le hadith qui est interdit, passe avant le hadith qui permet. Et la deuxième règle, le hadith qui est une parole, passe avant le hadith qui est un acte et un geste. Et ici, on a deux hadiths. Un hadith qui a dit, cache ta cuisse, et on a un hadith qui est un geste. C'est quoi? Le prophète Islam a montré sa cuisse. Et il y a contradiction apparemment. Maintenant, la règle dit quoi? Dit que s'il y a deux hadiths qui se contredisent, un hadith, c'est une parole. Ne faites pas ceci. Ne mangez pas cette chose. Et un hadith qui est acte. Il fait cette chose, et on le voit manger cette chose. Qu'est-ce qu'on fait? On prend avec le hadith qui est parole. Pourquoi? Parce que l'acte, il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait cette chose dans l'oubli. Le prophète alayhi wa sallam peut oublier ou il ne peut pas? Il peut oublier. C'est lui qui a dit dans le hadith musulman. Il a dit, innama ana basharun mithlukum ansa wa tadhakkar. Je suis un homme comme vous, j'oublie, je me rappelle. Si j'oublie, faites-moi rappeler. C'est pour ça que plusieurs fois dans la salat, il a oublié, on lui a corrigé la salat. Et plusieurs fois dans le Coran, il sautait un verset. Jusqu'à ce qu'on lui dise, et on lui disait, tu as sauté tel verset dans la récitation. Donc c'est quelqu'un qui oublie. Donc ici le prophète Hassan, quand il me dit, cache ta cuisse. Il ne peut pas m'oublier de dire cache ta cuisse. Donc c'est une règle. Donc c'est quelque chose de sûr. Il m'a dit, cache ta cuisse. Mais l'autre, il a découvert sa cuisse. Il se peut qu'il l'ait découvert dans l'oubli. Ou il se peut qu'il l'ait découvert parce que c'est spécial à lui, il peut la découvrir, etc. Ensuite, la conclusion que je voudrais dire, la conclusion, Inch'Allah Ta'ala, la conclusion, c'est que en ce qui concerne les cuisses, en ce qui concerne les cuisses, de l'homme à l'homme, bien sûr, de l'homme, de la femme à la femme, c'est pas la peine de parler, c'est haram. On parle de l'homme à l'homme, en ce qui concerne les cuisses, et la aura, la mughallaza, c'est les deux parties intimes. Et là, c'est les cuisses. Ça veut dire, par exemple, les cuisses, c'est aura, et tu peux toucher quelqu'un au-dessus du pantalon, tu peux le toucher sur la cuisse. Lui donner une frappe comme ça sur la cuisse, tu peux. C'est aura, mais la aura se divise en deux. Il y a la aura mughallaza, je ne connais pas le mot en français, mughallaza, et il y a la aura khafifa, légère. La aura khafifa, c'est la cuisse. Il est interdit de la montrer, mais si on peut la toucher comme ça au-dessus du pantalon, ou la donner une frappe ou là, c'est possible. Mais les parties intimes, on ne peut ni les montrer, ni les toucher, ni donner une frappe, ni s'amuser avec les parties intimes. Non. Maintenant, que doit cacher la femme? Afouine, salam alaykoum wa rahmatullah. Fais saut. Astaghfirullah wa tawbouli. Fais saut. Taïb, maintenant, que doit cacher la femme dans la salat? Que doit cacher la femme dans la salat? On va le laisser bi'idhni azza wa jalla au prochain dars. Parce que déjà le micro, il fait des akhar. Bon, taïb. Non. En ce qui concerne ceux qui parlent avec des femmes en PV, ça, alhamdoulilah, moi j'ai écrit en haut ce que je dois faire. Et yani, c'est entre eux et leur conscience et Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais que ce que doit cacher la femme dans la salat, on le laissera pour mercredi, inshallah, comme aujourd'hui, à 19h30, bi'idhni azza wa jalla. Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. Inshallah ta'ala, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Fais saut. Naam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salat salam ashraf al-mursalin. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إن شاء الله السؤال الأول تفضل. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la plupart des gens châtiés dans la tombe, ceux qui ne se lavent pas de l'urine, que serait-ce si cher de ceux qui sont salas, salas al-bawl, doivent-ils changer de vêtements à chaque fois? Ou bien le lavage des parties intimes suffira. Jazakallahu khayran. Naam. Salas al-bawl, c'est une maladie qui fait de sorte que l'urine ne s'arrête pas. Il y a des gouttes qui descendent, qu'on le veuille ou pas. Ça se trouve chez l'homme, ça se trouve chez les femmes. Le salas, ça s'appelle salas. Ça peut être bawl, ça peut être par exemple les gaz. Les gaz qui ne s'arrêtent pas de sortir. Maintenant, quand on a le sel, soit de l'urine, soit des gaz, qu'est-ce qu'on fait? On ne doit pas faire des ablutions jusqu'à la dernière minute. Quand on sait que, classe, je vais rentrer dans la prière, c'est là que je fais mes ablutions. Je lave mes parties intimes, je lave pour, en ce qui concerne l'urine, pas en ce qui concerne les gaz. En ce qui concerne les gaz, on se lave pas les parties intimes. Mais pour l'urine, on lave les parties intimes et on frotte l'endroit où il y a l'urine. Sinon, on change les sous-vêtements. On change le slip, par exemple. Sinon, on lave l'endroit. On lave l'endroit où il y a l'urine et on met un peu d'eau et on essore. On doit essorer. Mais de préférence pour quelqu'un qui a l'urine qui ne s'arrête pas, les gouttes, je dis bien de préférence, au lieu, yani, c'est difficile à chaque fois de changer les sous-vêtements ou à chaque fois de laver l'endroit là où il y a de l'urine et essoré, on met une sorte de serviette, disons une sorte de couche qu'on met les femmes, ou là une serviette, ou là du papier, ou même on met quelque chose dans nos sous-vêtements, comme ça, après avoir uriné, et on attend. Quand c'est maintenant l'heure de la prière, on jette cette chose, ce papier, ou là cette serviette, ou là on la jette, et on se lave les parties intimes, au lieu de laver les parties intimes et laver yani le vêtement intérieur. Tu gagnes cette chose de ne pas te fatiguer à laver à chaque fois le vêtement intérieur. Tu jettes seulement la chose et tu mets une nouvelle chose et tu rentres dans la prière. Maintenant, quand on est dans la prière, même si l'urine sort, même si les gaz sortent, on est excusé. On est excusé, on termine la salat, mais pour la prochaine salat, on ne peut pas. Pour la prochaine salat, on doit quoi? On doit faire de nouvelles ablutions. Quant à la tombe, c'est la même chose. À la tombe, la zone ne châtiera pas quelqu'un parce qu'il est malade et laver le sel. Il châtie quelqu'un qui ne veut pas se laver de l'urine. Et quelqu'un qui est malade, Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtie pas. Arhamur rahimin, Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam, deuxième question. Naam, et certains ulama ont dit que pour celui qui a le sels, qui ne s'arrête pas, il fait jeûner une salat, c'est tout, mais il peut faire la nafila de cette salat. Si d'habitude il faisait deux après le dhuhr, il fait les deux après le dhuhr parce qu'ils sont attachés avec sa salat. Mais il ne peut pas faire d'autres ablutions il ne peut pas faire une autre salat fard. Il faut faire d'autres ablutions, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadal, inshallah, prochaine question, bidnillah azza wa jalla. Inch'Allah, ça a été compris. Inch'Allah, préparez la prochaine question. Ne me faites pas attendre comme ça. Barakallah, vous êtes 6 personnes. 6 personnes. Préparez, inch'Allah, la prochaine question. Est-ce que lors de la prière, et ne me donnez, ne, pour l'instant, ne me donnez aucune question qui n'a pas rapport avec le cours. Et encore moins, s'il y a des choses, hein, ça c'est une règle générale que je vous dis, s'il y a des choses qui sont hors sujet, par exemple, on dit cette salle et ceci, ou là, celui qui fait l'audace et ceci, ou là, cela, c'est pas la peine de me le dire. Ne me le dites pas pour que, yani, ça marche, inshallah ta'ala, masha'Allah. Je disais, est-ce que lors de la prière, quelque chose nous donne envie de rire? Que tellement que si on retient notre rire, on a le sourire en prière. Est-ce que cela annule? Naam, le petit sourire n'annule pas dans la prière. Si on sourit comme ça une fois ou là, ça n'annule pas dans le prière, la prière. Ce qui annule, c'est rire. Quand on rit comme ça, jusqu'à y aller faire sortir un son, un son comme ça annule la prière. Mais si on fait juste un sourire, on se retient, ça n'annule pas la prière. Et il faut que vous sachiez que il n'y a pas un endroit où on veut rire plus que la salate. Vous savez que dans la salate, si on a le fou rire, c'est vraiment, vraiment difficile de le retenir. Non, c'est vraiment, vraiment difficile de le retenir. Allah subhanahu wa ta'ala l'avia. Si jamais on a le fou rire, on sort de la salate et on attend un peu et on refait la salate de nouveau et on change de personne. Si c'est cette personne qui nous fait rire, on ne fait pas la prière avec elle, sinon on va rire de nouveau. Naam. Prochaine question, inshallah ta'ala. Est-il vrai que l'unanimité des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, du prophète, alayhi sallam, considérait celui qui abandonne la prière soit mécréant, ainsi que les quatre écoles du fer. Hanbali, Shafi'i, Nafit Malik, quel soit le motif de l'abandon de la salat? Il y a un hadith des compagnons. Il est dit que ils ne voyaient pas quelque chose de kof, sauf la salat. Ils ne voyaient pas quelque chose de kof, sauf la salat. Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, a prouvé avec le hadith de Abi Sa'id Al-Khudri dans Al-Bukhari que voilà un sahabi Jalil très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui voyait que la salat n'était pas kof. Et son hadith est dans Sahih Al-Bukhari. Quant aux quatre grandes écoles de fiqh, Hanbali, Shafi'i, Hanafi et Maliki, c'est bien le contraire. Toutes ces quatre grandes écoles disaient que celui qui ne fait pas la prière paresseusement n'est pas un kafir. Naam, c'est le madhab Shafi'i, Hanafi, Maliki et la deuxième version de Ahmed ibn Hanbal qui est citée dans le Mughni, le livre le plus sûr des Hanabila. Il a dit Asah riwayatayn an Ahmed que les quatre grandes écoles ont dit quiconque ne fait pas la salat paresseusement seulement n'est pas un kafir. Alors si quelqu'un dit que celui qui ne fait pas la prière paresseusement est un mourdi, comme disent les Johar, ça veut dire qu'il a dit que Imam Malik, Abu Hanifa, et Shafi'i et Ahmed sont des mourdi. Oulayadou billah. Naam. Prochaine question, inshallah, tfadl. Naam, j'ai oublié de dire que autre chose, et que Sheikh Al-Albani a dit, pour le hadith qui dit que les compagnons avaient dit qu'on ne voyait pas quelque chose, ils ne voyaient pas quelque chose qui est coffre, sauf ne pas faire la salat, il a dit ça, ils ont dit coffre. Mais quel coffre? Le grand ou là, le petit? C'est ça la mouchkila. Quel coffre? Le grand ou là, le petit? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait un rapport avec sa femme dans les monstrues, elle est en plein monstru, il fait un rapport, il a dit faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Et la même chose pour la sodomie. Mais quel coffre? Le grand ou là, le petit? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque jure, n'en jure pas par Allah, il a fait le coffre et il a fait le shirk. Quel coffre? Le grand ou là, le petit? Le shirk. Le grand ou là, le petit? Seulement les nouveaux dans le ilm qui ne savent pas qu'il y a grand coffre, petit coffre, grande hypocrisie, grand shirk, petit shirk, alors ils marchent avec la règle générale. Quiconque fait un coffre, il est kafir. Quiconque, comme ça en général, sans essayer de savoir, le grand ou là, le petit. Quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ, il parle de quel coffre? Du grand ou là, du petit? Et le coffre, il est détaillé. N'importe qui ne juge pas par l'islam est kafir, où il y a des détails. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous apprenne notre dîn. Allah subhanahu wa ta'ala yu'allima la dîn. Ça y est, prochain soual, inshallah, tfadl. Ça y est, la prochaine fois, inshallah, je prendrai seulement deux personnes, un frère et une sœur, pour les questions-réponses. Comme ça, il n'y aura pas tout, il n'y aura pas ce problème. Donc je commence à enlever à ceux, je commence à enlever à ceux qui lèvent la main. Puisque vous n'avez pas de questions, Abu Ikhlas, prépare-toi Abu Ikhlas. Fadal Abu Ikhlas. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sheikh, doit-on dire quelque chose? Doit-on dire quelque chose à la fin de Sourate At-Tin? Si oui, le dit-on aussi en prière? Barakallahu fik. Naam, Sourate At-Tin se termine par Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Certains disent Bala. Certains ajoutent Bala. Ça, ce n'est pas vrai. C'est faible. On s'arrête seulement où s'est arrêté le Coran. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. On s'arrête, c'est tout. On ne dit pas Bala. Naam. Tfadl, inshallah. Prochaine question. Certains ajoutent, ils disent Bala, wa wa ahkam al-hakimin, Bala, kada, ils ajoutent comme ça des phrases. Tout ça, puis Ibn Azza wa Jal, il n'y a rien dans la sunna qui dit que on dit quelque chose ici dans Sourate At-Tin. Abu Ikhlas, j'attends ta question. Tayyib, Abu Ikhlas ne pose pas. Salah Ad-Din, prépare-toi, inshallah ta'ala. Tayyib. Après Ta'amallah, est-ce vrai que Omar ibn Khattab levait les mains entre tous les soujouds et rukou' dès qu'il a entendu que le prophète Islam le faisait? Barakallahu fik. Est-ce que vrai que Omar ibn Khattab levait les mains entre tous les rukou' et tous les soujouds dès qu'il a entendu que le prophète Islam le faisait? Je ne connais pas cette chose, je ne sais pas, et je n'ai jamais lu que Omar radiallahu ta'ala anhu le faisait. Je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait de temps en temps. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut, depuis qu'on dit Allahu Akbar jusqu'à ce qu'on termine, on peut dire à chaque fois, yani quand on dit Allahu Akbar, on lève les mains avec. Je donne un exemple, je dis Allahu Akbar, je lève les mains, je lis, ensuite je dis Allahu Akbar, je fais l'inclinaison. Je dis Sami Allah liman hamid, en même temps je lève les mains. Ou si je dis Sami Allah liman hamida, je lève les mains. Si je dis Allahu Akbar, je lève les mains. Maintenant je suis prosterné. Je dis Allahu Akbar pour m'asseoir, je lève les mains. Je dis Allahu Akbar pour me reprosterner, je lève la main, et comme ça dans toute la salat. C'est possible, bi'illah azza wa jal. Naam. Salah bin Adi, salam alaikum, salam wa salam. Je suis nouveau dans ce rond, ma question est assez simple. Qui vous êtes, une timia, vous avez quoi comme étude, votre parcours, quel groupe vous appartenez? Salah bin Chof, tu l'es en haut, c'est écrit, tu vois, c'est écrit www.imtimia. Tu vas là-bas, Inch'Allah, tu vas trouver la biographie bin azza wa jal. Tu cliques là-bas, Inch'Allah ta'ala, c'est écrit en haut sur la bannière, en bleu. ibntaymiyyahgeran.com. Tu vas là-bas, Inch'Allah ta'ala, tu vas lire bi'idhnillah ta'ala ce qu'il y a. Naam. Naam, la mienne, elle est haut. Naam. Pour ne pas répéter à chaque nouveau qui rentre, il me demande, yani qui es-tu, etc. Pour ne pas me répéter à chaque fois et couper le cours, j'ai dit que puisque Abu Ikhlas n'est pas là, on va le descendre, Inch'Allah ta'ala. Ah. Oum Hamza, prépare-toi, bi'idhnillah azza wa jal. Oum Hamza, pose ta question si tu l'as, bi'idhnillah. Ça ne marche pas, coupe-la, parce qu'elle est longue. Elle peut pas passer tout à la fois. Coupe là en deux ou là en trois. Tamallah, attends un peu, Inch'Allah. Wa alaykoum salam, wa rahmatullah. Quand tu termines, Oum Hamza, tu écris numéro 1. Pour que je sache, tu as terminé, Inch'Allah. Quiconque, Inch'Allah, pose la question, écrit numéro 1. Pour que je sache qu'il a terminé ou qu'on ne perde pas de temps. Si c'est terminé, tu écris numéro 1. Oum Hamza, tu vas faire. Naam. Tu as terminé, Oum Hamza. Naam. Pour la salat du Fajr. Naam. Il y a salat al-Fajr. Ensuite, il y a Salat Subh. Quand on entend le deuxième, ça veut dire que on fait des ablutions, on se prépare pour faire Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, c'est une sunnah. C'est pas une obligation. C'est une sunnah mu'akkada, très recommandée. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est très recommandée. Et la différence entre une sunna mu'akkada et une obligation, sunna mu'akkada, si on ne la fait pas, mais ici, devant les gens, ce n'est pas bien. Si on ne fait pas toujours la sunna mu'akkada, on perd la shahada. La shahada, c'est pas la ilaha illallah. On ne peut plus aller témoigner, le témoignage. On ne peut plus témoigner dans un mariage. Pourquoi? Parce que il faut quelqu'un de adl. Adl. Naam. Il faut quelqu'un qui fasse les sunan mu'akkada. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé tomber salat al-fajr et le witr. Car ce sont les deux salats qui ne sont pas obligatoires mais les plus recommandés. Il ne les a laissés ni dans le voyage. Naam. Il ne les a laissés ni dans le voyage ni quand il était dans sa ville. Donc, quand on entend le deuxième adhan, on attend un peu, au moins 20 minutes, ou là un quart d'heure, et on fait les ablutions, on fait salat al-fajr, avec l'intention que c'est une nafila, c'est pas une obligation. On lit dans la première raka, qul alhamdulillah, et ensuite, qul ya ayyuhal kafirun. Et dans la deuxième, alhamdulillah, qul huwallahu ahad. Ensuite, on attend un peu et voir. Je ne sais pas ce que ça veut dire en France, comment ça se passe. C'est aussi deux rak'at à voix haute. En France, c'est la même chose. Il y a le fajr, deux rak'at, et il y a le subh, deux rak'at à voix haute. Il n'y a pas d'adhan. C'est d'après la montre. Tu demandes aux gens c'est quand Salat al-Fajr. Et c'est quand, yani, quand tu sais, c'est quand Salat al-Fajr, classe. Quand il y a le Adhan, tu attends un peu, tu fais Salat al-Fajr, et ensuite tu attends un peu et tu fais Salat al-Sobh. Naam, tu demandes l'heure. Tu demandes, c'est pas quelle heure. Tous les frères et toutes les sœurs connaissent. Tous les frères et toutes les sœurs connaissent. Naam, au calendrier. Le calendrier des musulmans. Naam, seulement pour Salat al-Sobh, tu ajoutes un peu. Tu ajoutes jusqu'à 20 minutes après ce qu'il y a sur le calendrier. Seulement pour Salat al-Sobh. Naam. Prochaine question, inshallah ta'ala. Fiki barakallah. Fiki barakallah. Salafia 92, prépare-toi. Est-ce que vous avez une question ici? Les frères, les sœurs, est-ce que vous avez une question? Salafia 92. Après cette question, inshallah ta'ala. Pouvons-nous, dans les ablutions, faire exemple 3 fois le bras droit et 4 fois le bras gauche, barakallahu fik. Pouvons-nous, dans les ablutions, faire exemple 3 fois le bras droit et 4 fois le bras gauche, barakallahu fik. Réponse, on ne peut pas. Naam, on ne peut pas. On peut faire le contraire. C'est-à-dire, par exemple, une fois le bras droit, deux fois le bras gauche, une fois le pied droit, trois fois le pied gauche. Comme a dit Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Il a dit. Mais celui qui fait quatre fois, il est rentré dans le hadith que, où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Men zada, yani, celui qui fait la quatrième, faqad asa'a. Je crois même qu'il a dit wa zalam. Naam, asa'a wa zalam. Il n'a pas le droit de faire une quatrième fois. Sauf si par exemple j'ai oublié. Je me dis, je ne sais pas, c'est trois, c'est quatre. Et il refait avec l'intention que c'est la troisième. Mais personne n'a le droit d'ajouter une quatrième s'il sait qu'il a déjà fait trois. Sinon, il rentre dans le péché. Naam. Salam alaykoum ya Cheikh. Pouvez-vous nous garder, pouvez-vous nous parler sur la divergence des ulamas sur le fait que le nombril et les genoux sont des auras pour l'homme. Qu'Allah nous facilite le passage sur le sirat. Amin ya Rabbi Alamin. Sah, les ulamas ont beaucoup de divergences sur le nombril et les genoux. Sur le nombril et les genoux. C'est-à-dire la aura. Elle commence du nombril jusqu'au genou. Mais est-ce que le nombril rentre dans la aura ou là il ne rentre pas? Est-ce qu'on le laisse découvert et on commence au-dessus du nombril? La même chose, les genoux, on doit s'arrêter aux genoux. Mais les genoux rentre dans la aura, où là on s'arrête au-dessus des genoux, en haut. Il y a ici un khilaf entre les ulamas, mais je ne connais pas jusqu'à présent un dalil clair qui tranche dans cette divergence. C'est pour ça, quand on est dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? On prend avec le hadith, le halal ou bayin, ou le haram ou bayin, ou baynahuma, ou tashabihat. Naam. Et jusqu'à la fin. Man, istabra ali, l'akhor, faqad istabra ali dine. Donc, quand c'est comme ça, on n'est pas très sûr. Pour sortir de la divergence et être sûr que je n'ai pas fait de faute, je cache mon nombril et je cache mes genoux. Comme ça. Si c'était aura, deux mains devant Allah, alhamdoulilah, je les ai cachés, c'était aura. Si ce n'est pas aura et je les ai cachés, Allah Azza wa Jalla me donnera un ajr pour avoir cette intention de lui obéir même si je me suis trompé. Naam, d'avoir peur au point où je les ai cachés. Naam, il te donnera un ajr pour avoir pris cette précaution de wara' et tark shubuhat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Salafiyya 92. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, c'est quoi la question bi'idhnillah? Pour une femme, a-t-elle le droit de prier avec des gants? Une femme qui est seule, elle ne cache ni son visage ni ses mains. Une femme qui est seule, ou bien avec ses maharim, avec son mari, avec ses enfants, avec son père, avec son grand-père, avec ses neveux, celle-là, elle ne doit cacher ni son visage ni ses mains. Mais quand elle est avec des hommes, si elle est du genre qui dit que chose de son corps. Dans ce cas, il n'y a pas de sang à Elias. Attends, j'attends les autres, est-ce qu'ils ont du sang? Est-ce qu'il y a du sang? Non. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu la réponse ou pas. Je dis, je répète. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas de sang. Pour une femme qui dit que c'est interdit de montrer le visage et les mains aux hommes, celle-là, si elle est avec des hommes, elle doit faire la prière à visage couvert et les mains couvertes. Mais si elle est seule, elle doit faire la prière à main découverte et à visage découvert. Si elle est seule avec seulement les mahrams, seulement avec son mari, ses enfants, ses oncles, celle-là, elle fait avec quoi? Avec visage découvert et main découverte. Quant à l'homme, s'il, par exemple, s'il fait froid, il peut faire la salate avec les gants, s'il fait froid. Et si quelqu'un va dire, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Omerto an asjuda ala saba. Il m'a été ordonné de me prosterner sur sept. Et il a cité les deux mains. Donc, si on met les gants, on ne sait pas prosterner sur les deux mains. On lui dira, fais l'analogie, la même chose pour les mains. Comme tu te permets pour les genoux, tu te permets pour les mains. Mais les ulama ont dit, de préférence, on ne fait la prière avec les gants que lorsqu'il y a une excuse. Par exemple, il y a froid ou là, j'ai eu la main brûlée ou là, quelque chose comme ça. Non, quand il y a une excuse. Non. Prochaine question, Inch'Allah. Salafi, il y a 92, n'a pas encore posé sa question. Non. Momo 77, Momo, prépare-toi, Inch'Allah. J'ai deux questions. La première, en ce qui concerne les prières surérogatoires avant Sobh. Et après Maghrib et après l'Isha. Peut-on les faire à voix haute? Doit-on les faire à voix basse? Ou après la 23h. 2 jours, 3 heures après son temps. Environ 22 heures ou 23 heures, sachant qu'elle est à 19 heures. Ou bien est-ce qu'il est mieux de l'accomplir dès son entrée? Je parle bien sûr pour les femmes, puisque les hommes effectuent le salawat dans le musulman. Naam. Premièrement, Ur Salafiyya, pour l'écriture. Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, choisis une police un peu grande et une couleur assez vive, comme le bleu par exemple. Comme le bleu. Naam. Inch'Allah, pour la première question, en ce qui concerne les prières surérogatoires, avant Sobh, après Maghrib, après Isha, la règle dit que, naam, il n'y a pas de problème, Jazakallahu khairan pour avoir répondu vite. La règle dit que, de préférence, les prières surérogatoires, de préférence, celles du jour, on les fait à voix basse. Et celle de la nuit, on les fait à voix haute, de préférence. Celle du jour, on les fait à voix basse. Et celle de la nuit, on les fait à voix haute. C'est ça la règle. Mais, Ibn Hazm a rapporté l'unanime, c'est vrai, que quoi? Surérogatoire, pas de sang, la hawla wa la quwwata. Je disais que Ibn Hazm a rapporté l'unanimité des ulama que pendant la prière surérogatoire, on est libre. Si on veut à haute voix, on fait à haute voix. Si on veut à voix basse, on fait à voix basse. Non. Si on veut la faire à voix haute, on la fait à voix haute. Si on veut à voix basse, on fait à voix basse. Les deux, c'est valable. Mais de préférence, le jour, on fait à voix basse, et la nuit, on fait à voix haute. Ça, c'est de préférence. Maintenant, en ce qui concerne l'Isha. Non, en ce qui concerne l'Isha, la meilleure des choses, c'est de toujours faire la salat en son premier temps. La meilleure des choses, c'est de toujours faire la salat en son premier temps, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Non. Après une minute, on ne va pas, si on va faire la prière, on va mourir. Et ensuite, la femme, plus particulièrement, elle peut avoir les menstrues. Elle attend un peu, et voilà, elle a les menstrues. Donc, elle a fait passer une salat, quoique, Ibn Taymiyyah, rahmatullah, a dit, elle n'est pas obligée de la refaire. Et Ibn Uthaymin, rahmatullah, a dit, de la préférence, elle la refait, elle la rattrape. Mais elle n'est pas obligée, parce que c'est quelque chose qui la dépasse. Mais je disais, la meilleure des choses, c'est la prière en son premier temps. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, quand on lui a dit quelle est la meilleure des choses, la meilleure action qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit la salat en son temps, yani en son premier temps, surtout le premier temps. Mais, si on tarde un peu la isha, à cause de ilm, ou à cause de on est en train de manger, ou à cause d'une excuse valable, on peut. Surtout si c'est à la mosquée. Si c'est à la mosquée, et on dit par exemple, on va la tarder un peu, on va faire un dos et on va la tarder un peu, on peut, c'est possible. Mais il ne faut pas aller jusqu'à 23 heures. Il ne faut pas aller jusqu'à 23 heures car elle risque de sortir. Car son temps, sa fin, ce n'est pas à minuit. C'est un peu avant. Sa fin n'est pas à minuit, mais un peu avant. Donc moi je donne un conseil. Celui qui peut faire la prière en son premier temps, qu'il la fasse bi'idhnillah azza wa jalla. Non, qu'il la fasse. C'est mieux bi'idhnillah azza wa jalla. Maintenant, s'il est en train de manger, ou là en train d'écouter quelque chose de ilm, la science, ou là d'écrire quelque chose, là, il attend qu'il termine, inshallah ta'ala. Jazakillahu khair, non. Moumou, inshallah, tafaddal. Tamallah, cheikh, une personne arrivant en retard à une prière en jama'a. Naam. Et lors du rattrapage des rak'at, il a rattrapé, il fait une erreur. Doit-il faire les prosternations de distraction, ou bien c'est lui-même qui est responsable de son erreur, comme à l'habitude dans la prière en jama'a? Naam. Je vais te répondre, inshallah ta'ala. Je vais te répondre, bi'illah azza wa jalla. Quand on est derrière un imam, ça dépend la chose et ça dépend de l'erreur. Ça dépend de l'erreur. Si on a oublié de lire une surah ou là, c'est pas grave. C'est l'imam qui, yani, comment tu as dit toi, c'est l'imam qui est responsable à ta place. Mais si par exemple, je donne un exemple, l'imam s'est prosterné. Ensuite, moi, je me suis, par exemple, prosterné avec lui. Ensuite, il a dit, Allahu Akbar, je n'ai pas entendu. Il a levé la tête. Ensuite, il est au soujoud. Et moi, je suis toujours prosterné. Ensuite, je découvre la faute. Qu'est-ce que je dois faire ici? Tout seul et très vite, je lève la tête de l'inclinaison, je dis, Sami Allah liman hamida, et je le suis à la prosternation. Et s'il s'est déjà assis de la prosternation, je m'assois, je fais vite, je m'assois et je le rattrape. Non, c'est comme ça. Derrière le imam, on ne fait pas le sujoud hada, on ne le fait pas. C'est lui qui est responsable. Sauf si nous, on laisse passer exprès un rokn ou la une raka, ça, c'est notre salat qui est battée là. Là, elle a annulé notre salat. Mais si on l'a pas fait exprès, il nous a dépassé de quelque chose, on va vite pour le rattraper. Bi'idhnillah azza wa jalla. C'est comme ça que disent les ulama. Bi'idhnillah azza wa jalla. Naam. Moumou, tafaddal. Attendez, pardon, j'ai peur de ne pas avoir bien compris la question. Une personne arrivant en retard à une prière en jama'a. Et lors du rattrapage des rak'at, qu'il a rattrapé, c'est une erreur. Doit-il faire les prosternations de distraction, ou bien c'est l'imam qui est responsable? Non, j'ai pas terminé la question. Donc celui-là est arrivé en retard et il est rentré avec le groupe. Maintenant, il a fait une erreur. Quand il rattrapé. Il a fait une erreur. Mais quand si l'imam a fait une faute, si la prosternation est à l'intérieur de la salade de l'imam, avec lui. Ici, si la prosternation de la salade, tu laisses toi. Avant de terminer ta salade, tu fais la prosternation à l'intérieur de ta salade. Et si l'imam a fait la prosternation hors salade, quand il a dit salam alaykoum, il a fait la prosternation, puis avec l'imam, par exemple, salam alaykoum pour que je rattrape seul. Maintenant, avant de l'imam, il dit salam alaykoum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prosternation à l'intérieur de la salade, l'imam. Moi, tant que je suis avec lui, je le suis. Je fais comme lui. Je fais la prosternation à l'intérieur de la salade. Ensuite, il dit salam alaykoum, je dis salam. Lui il dit salam, moi je me lève et je termine la salade. Mais s'il a fait une prosternation hors salade, je ne la fais pas avec lui. Je ne fais la prosternation que s'il l'a fait dans la salade. S'il l'a fait hors salade, je me lève, je termine et je fais la prosternation tout seul, hors salade. Naam. Et si c'est autre chose, il faut me faire comprendre. J'ai pas bien compris la question. Salam wa kumashi khanak, fahaluka, alhamdulillah. Si tu m'ajoutes dans ta liste, ça fait des mots que je te demande de faire. Là, apparemment, le mot n'est pas passé. J'aimerais vous parler de deux choses importantes. Notre mosquée en France comprend un bâtiment, un parking, une maison, une loge de gardien. Dans le bâtiment, il y a la salle de prière principale, celle des femmes, les ablutions hommes et femmes, une grande cour où l'on prend qu'il manque de place de salle de cour. Concernant le commerce, il est interdit de faire du commerce dans la mosquée. Qu'est-ce qui est considéré comme mosquée ici? Peut-on vendre dans une salle de classe, le parking, etc. Sachant que la mosquée est entourée d'une clôture, voilà que l'on fait. Il parle d'une erreur quand il rattrape tout seul, après le tislim. Naam, s'il a fait une erreur, si c'est lui qui a fait une erreur, il rattrape. C'est normal qu'il rattrape son erreur, il corrige son erreur. Si toi, si c'est l'imam qui a fait l'erreur, l'imam a fait la prosternation dans la salle, tu te prosternes avant lui, avant de te lever pour continuer. Et si l'imam a fait une prosternation hors, après salam, soit tu te lèves et tu fais la prosternation de l'imam, tu l'as fait après salam. Mais si l'erreur, c'est toi qui l'as faite, quand tu t'es levé pour continuer seul, tu as fait une erreur, ça c'est autre chose, ça c'est toi qui la répare. C'est normal, maintenant tu es seul. Quand tu es seul, tu as quitté l'imam, toutes les fautes c'est toi qui en es responsable, c'est pas l'imam. Naam, Moumou, pour en ce qui concerne la mosquée, les ulama disent on voit à la clôture. Ils disent tout ce qui clôture la mosquée, ça appartient à la mosquée. Naam. S'il y a un mur qui clôture la mosquée, tout ce qu'il y a à la mosquée, ça appartient à la mosquée. On ne peut pas vendre à l'intérieur. Non, on ne peut pas vendre à l'intérieur. Et certaines personnes, comme certains sœurs par exemple, même certains frères se trompent. Qu'est-ce qu'ils font par exemple? Ils donnent des cours particuliers. Non, ils donnent des cours particuliers par exemple de mathématiques ou là, d'anglais, ou là ils se disent dans la mosquée pour ou là l'arabe pour apprendre aux enfants, mais ils prennent de l'argent. Non, ça ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est comme la vente est interdite dans la mosquée, il est interdit aussi que tu fasses quelque chose qui fasse rentrer de l'argent dans la mosquée. Soit tu vends, soit tu fais des cours, soit tu fais n'importe quoi dans la mosquée, tu ne fais pas en contrepartie. Naam. Ceux qui donnent des cours de maths, d'anglais, d'arabe, et prennent de l'argent, ils n'ont pas le droit. C'est comme il est interdit de vendre, il est interdit de faire des cours aussi et de faire rentrer de l'argent, sauf si on le fait fisabilillah. Si tu veux faire des cours, fais-les pas dans la mosquée, à l'extérieur, même dans la salle de classe. Naam. Le parking, je ne sais pas yani, comment c'est entouré de la mosquée, je vois pas pourquoi on a entouré aussi le parking. C'est ça la question, pourquoi on a entouré aussi le parking. Naam. Si tu peux, bi'idhnillah azza wa jall, envoie-moi, inshallah ta'ala, la photo. Ah, Nam, propriété privée, Nam. Nam. Je ne sais pas, le parking, c'est peut-être un peu loin, mais je ne sais pas. Si tu peux, Bidna Azzawajal, envoie-moi la photo. Je vais maintenant te mettre dans la liste, Bidna Azzawajal. Si tu peux, Bidna Azzawajal, envoie-moi la photo. Pour être plus sûr, Inch'Allah Ta'ala. Nam. Bidna Azzawajal, Nam. Tayyib. Inch'Allah Ta'ala. Je vais te mettre dans la liste, Inch'Allah Ta'ala. Non. Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, je t'ai mis dans la liste. Kikabarakallah. Vincent Zout, Fadal. Pardon, j'ai enlevé au moins là. Ça ne fait rien après lui. Non. Vincent Zout, Fadal. 34. Alayka salam wa rahmatullah. Masha'Allah, quand tu écris grand, pourquoi tu écris comme ça grand? Vincent Zou, c'est grand ce que tu as écrit, il faut diminuer un peu. Il faut une loupe. Il faut une loupe pour lire ce que tu as écrit. Naam. Fadal, j'attends ta question. Au moins, s'il a préparé la question, Barakallahu fik, hatta, allez, on perd pas de temps. Quand je dis pose-la, bidna, pose-la. J'ai peur que Vincent Zou soit bloqué. Maalish, maalish pour aujourd'hui. Maalish, laisse pour aujourd'hui. Salam alaikum, je suis italien converti depuis 2 ans. Masha'Allah, si je connaissais l'italien, je t'aurais parlé. Je connais pas un mot, hein. Quand je vais me rappeler d'un mot, je ne sais pas, hein. Pizzario, tout ce que je sais à la pizza. Je suis italien converti depuis 2 ans. Je voudrais savoir, peut-on se marier avec une femme chrétienne qui a reçu une éducation stricte, mais qui, Romario, mais qui n'est pas musulmane, en sachant qu'elle s'intéresse à l'islam et elle s'y intéresse beaucoup. Et je voudrais savoir, mon frère se laisse pousser la barbe et ma mère pleure souvent et elle veut qu'il taille un peu pour que ça fait plus joli. Est-ce possible, Barakallahu fik? Non. Ilyes, dis-moi s'il y a le son. Il y a un frère qui m'a envoyé une question pour lui. Puis-je la poser? Fadl, pose ta question. Fadl, Y a Omar, Fadl. Je t'appelle Omar au lieu de Vincent Zouada. Déjà, il contient le mot vin. Tfadl. Tfadl, ya Omar. Tfadl. Pose ta question, Inch'Allah. Non, maintenant, c'est plus grand l'écriture, ça. Ça y est. Pourquoi je dis Tfadl? Omar, c'est à toi, Omar. Si tu m'entends, Omar. Omar Vincent Zou. Écris, Inch'Allah, maintenant la deuxième question. Je ne veux pas te répondre et tu es en train d'écrire. Ça veut dire que tu ne vas pas m'écouter. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Hayakallah. Question d'un frère qui est pressé. Je reçois des appels téléphoniques d'une sœur depuis plus de 2 semaines. Elle a eu mon numéro par l'intermédiaire d'une sœur et cette sœur de son mari, sans mon consentement. Je ne la connais pas, elle s'est renseignée sur moi. Auprès de cette sœur. Naam. Où est la question, Baraklovic? Où est la question? Je reçois des appels téléphoniques d'une sœur depuis peu de 2 semaines. Elle a eu mon numéro par l'intermédiaire d'une sœur et cette sœur de son mari sans mon consentement. Je ne la connais pas. Elle s'est renseignée sur moi auprès de sa sœur. C'est quoi la question, Yanni? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est permis? Dis-moi si c'est ça la question. Nam, est-ce que c'est ça la question? Est-ce que tu veux dire? Nam. Chauffe Akhil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Cette sœur, qui te téléphone, premièrement, elle n'est pas une sœur. Nam, elle n'est pas une sœur. Je ne crois pas qu'une sœur fasse cela. Je ne crois pas qu'une sœur comme ça, yani elle a la jura La jur'a, la non-pudeur comme ça, de chercher le numéro de téléphone de quelqu'un et de commencer à lui téléphoner. Allah al-musta'an. Je ne crois pas qu'une sœur fasse cela. Inch'Allah ta'ala, si tu lui parles, non, c'est pas plus. Si tu lui parles, tu lui dis taqillah. Si tu lui parles, tu lui dis taqillah, quitte à ce que tu changes de numéro pour t'éloigner de la fitna. Tu veux t'éloigner de la fitna, inch'Allah ta'ala, tu changes de numéro. Bidlaz, dis-lui de changer de numéro pour s'éloigner de la fitna, inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la première question, il est possible à un musulman de se marier avec une chrétienne qui a reçu une éducation stricte. Naam, si c'est une chrétienne et elle va à l'église et elle va le dimanche à l'église et elle fait ces trucs là, il est possible à un musulman de se marier avec elle. Surtout si, comme tu dis, elle a, yani, elle penche un peu vers l'islam. Si elle penche un peu vers l'islam, ce sera inshallah ta'ala peut-être une occasion de la faire rentrer bi'idna azzawajal en islam. Naam, quand elle verra le bon comportement de son mari et comment qu'il est mashallah, elle se compare à lui, elle voit que bi'idna elle est dans le faux, elle voit que elle se fatigue dans le vide, comme a dit Allah ta'ala dans le Coran, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin amila wujuhu yawma idin khashiyah amilatun nasibah. Il a dit le jour du jugement dernier, ou jour ni yawma idin khashi'ah amilatun nasiba. Dans cette vie amila, elle se fatiguait, nasiba, yani la sueur qui coule. Et conclusion, tasla naran hamiya, et elle sera en enfer. À quoi ça sert de se fatiguer, d'aller à l'église, de je ne sais pas, de donner l'argent, de pour mourir et aller en enfer, comme la da'wa qui a passé toute sa vie en Inde à un enfant, à un fils. Naam, inshallah, voilà la réponse. Ensuite, naam, salam alaykoum, j'étais, le pasteur qui était fermé. Qui saute, naam. Donc je disais qu'il était permis, inshallah ta'ala, de se marier avec une chrétienne, quoique le mariage avec la musulmane est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Le mariage avec la musulmane, avec la ukht, avec la salafia, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grande ni'ma. Celui qui se marie avec une chrétienne, il ne faut pas qu'il se dise après j'ai des problèmes. Elle ne veut pas ceci, elle ne veut pas la prière, elle ne veut pas rentrer en islam. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Il ne faut pas qu'il dise moi... je supporte pas telle chose et telle chose là. Non, mais il est permis de se marier avec une chrétienne. Si bien sûr, si c'est Afifa, il faut que ça soit la chrétienne, elle dit, il faut pas que ça soit une fornicatrice. Il faut que ça soit Afifa. Il y en a une femme qui suit son dîne, c'est pas une fornicatrice, comme font beaucoup de gens. Ils se marient avec une femme qui travaille dans le bar, hein, travaille dans le bar ou la, elle travaille dans le cabaret. Et il dit, c'est une chrétienne, je me suis marié avec une chrétienne. Naam. Allah al-musta'an. Tayyib, c'était à qui le tour? Maintenant, il y avait une ourte qui devait poser la question. Je ne sais pas c'est qui. Naam, j'avais enlevé le point rouge à une sœur. Ah, pour la barbe, naam. Pour la barbe, si elle est vraiment longue, naam, et elle dépasse, de façon à ce que, S'il la prend avec sa main, elle dépasse sa main. Il peut, inshallah ta'ala, tailler ce qui dépasse. Il peut tailler si elle dépasse. Yani, quand il prend comme ça avec la main, ça sort de sa main. Il peut, inshallah ta'ala, tailler. Maintenant, s'il a vraiment des problèmes avec sa mère, vraiment des problèmes, au point où on le fait sortir de la maison, au point où on lui dit ne vient pas chez nous, au point, il a vraiment des problèmes, il peut, inshallah ta'ala, tailler un peu sa barbe. Il a vraiment des problèmes. Naam. Il est dans la daroura. Mais s'il n'a aucun problème, il vaut mieux qu'il persiste et qu'il endure. Naam. Qu'il dise que chacun c'est sa tombe. Chacun c'est sa tombe. Moi, ma mère, moi je t'ai rien dit. Laisse-moi seulement avec ma barbe et laisse-moi seulement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je te demande pas de rentrer dans le dîn ou la rien. Laisse-moi seulement yani faire ce dont je suis convaincu bi idna azza wa jal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Quelle est la prochaine qui devait poser les questions, la prochaine ortho à laquelle j'ai enlevé le point rouge? Celle qu'elle n'est pas avec nous dans la salle. Tayyib. Celle-là, il y a du 54. Om Wasila, ça. Om Wasila, je me rappelle ça. Naam. Sur celle-là, il y a du 54. Masha'Allah. J'ai pas terminé qu'elle avait posé la question. Masha'Allah, alayha. Tayyib. Om Wasila dit. Salam alaikum. Est-il autorisé de bouger en salat, sachant que j'ai deux enfants et que la plus grande essaye de faire tomber ou d'étouffer sa petite sœur? Sunna. Si le mari frappe sa femme et la femme lui demande de lui divorcer, il la divorce mais pas devant deux témoins. Ils sont séparés depuis 8 mois. Elle veut se marier avec un autre et maintenant le ex-mari dit qu'il n'a pas divorcé. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Non, pour la première question, on peut bouger dans la salat sans quitter la qibla. On bouge dans la salat quand c'est quelque chose yani, qu'on doit faire. Maintenant, si c'est une salat nafila, si c'est une salat surérogatoire, on peut bouger beaucoup plus. Mais moi je parle, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une salat surérogatoire, a ouvert la porte. Comme c'est dans le hadith de Abi Daoud. Cheikh Al-Albani a dit hadith sahih. Hadith sahih. Le prophète alayhi wa sallam, dans une salat surérogatoire, il est allé ouvrir la porte et est revenu en continuant sa salat. C'est-à-dire il n'a pas quitté la qibla. Hein? Quand je fais la salat et la porte est en face de moi, je marche deux pas, j'ouvre la porte et je reviens marche arrière et je termine ma salat. Il n'y a pas de problème. Ou là, quand c'est quelque chose, je dois marcher un peu à gauche, un peu à droite, ce n'est pas un problème. Maintenant, quand c'est dans une salat obligatoire, si c'est quelque chose d'assez urgent, je marche un peu à droite ou un peu à gauche. Naam, le hadith il est dans le Bukhari. Il est dans le Bukhari de celui qui faisait la prière tout en tenant, yani, il avait un chameau, il tenait la corde du chameau pour que le chameau ne sauve pas. Comme ça, en plein désert, si je lâche le chameau, j'ai pas où l'arracher, il y a ni arbre ni rien. Si je le lâche, je vais faire la prière, ensuite, quand je termine ma salat, il n'y a pas le chameau, je vais mourir en plein désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tenu et il commençait à faire la prière en le tenant. En tenant la corde. Et le chameau marchait, le tirait, bien sûr, le chameau, il a beaucoup de force. Et l'autre, il faisait la prière, ça veut dire, il s'inclinait un peu ici, ensuite il le tirait, il faisait prosternation un mètre plus loin, ensuite il le tirait, il se levait, il marchait avec celui-là, ce chir. Quoi qu'il n'y a pas de son, nam, il leur a montré. C'était un grand compagnon et que cette salat se faisait comme ça, en bougeant quand on est dans la darura. Aller à droite ou à gauche vers ton fils sans quitter la qibla, c'est bien. Tu vas à droite et à gauche sans quitter la qibla, mais si c'est quelque chose de grave, tu vas donner le dos à la qibla, alors tu dois quitter la salat, sauver le fils, l'enfant, et ensuite refaire la salat. Non, quelque chose de grave. Tu sens qu'il a escaladé le balcon, il va tomber. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu termines la salat? Et quand tu peux la terminer, il y a quelqu'un qui peut la terminer? Et celui qui la termine, il pense à son fils ou là il pense à la salat? Donc il vaut mieux sortir de la salat et de la refaire. Mais si on peut aller vers le fils ou vers l'enfant sans changer de qibla, tu restes dans la salat et tu vas comme ça un peu à droite, tu le tires de ta main et tu continues la salat. Naam. Et tu n'es pas obligé de revenir à l'endroit même. Tu continues là-bas la salat. Tu es toujours dans la qibla, inshallah ta'ala. Pour le mari qui frappe sa femme, et sa femme lui demande de lui divorcer. Il l'a divorcé pas devant témoin. Pas devant deux témoins. Ils sont séparés devant 8 mois. Elle veut se marier avec un autre. Et maintenant, le ex-mari dit qu'il n'a pas divorcé. Si elle l'a entendu, il lui a dit, Ente taliq, je t'ai divorcé. Elle est divorcée. Les témoins, c'est seulement une sunna. C'est seulement chez les chiites. Les chiites disent, les deux témoins pour le mariage, c'est une condition. S'il n'y a pas les témoins, il n'y a pas de divorce, pardon. Ils disent dans le divorce, c'est une condition. Et Al-Sunna disent, c'est seulement une sunna. Quand on fait le divorce, c'est une sunna d'avoir deux témoins. Et la même chose, quand on reprend la femme, après l'avoir divorcée, on veut la reprendre, c'est bien aussi de faire témoigner deux personnes. Donc cette femme, bi-idhnillah, si son mari lui a dit, tu es divorcée, elle est divorcée, et les deux témoins, ce n'est pas une condition obligatoire. Elle est déjà divorcée, elle peut se marier, bi-idhnillah, azzawajal. Et oui, ils ont deux petits-enfants. Naam. Est-il interdit de consommer des produits concernant du E471, du lactosérum ou du lactose? Quand on sait que l'origine, ces ingrédients sont issus d'animaux haram. C'est la première fois que j'entends parler de ce numéro, de 471, de lactosérum, là je ne sais pas. Naam. Mais pour les ingrédients haram, si, il y en a partout, naam. Il y en a pas chez moi où je suis ici. Où je suis moi ici, il n'y a pas le 471 lactosérum. Lactosérum, il n'y a pas. Naam. Et personne n'en a entendu parler. Je disais, si, on sait que l'ingrédient qu'il y a, si on sait que khlas, il n'existe plus. Cet ingrédient, khlas, yani, a fondu de façon à ce que c'est comme s'il n'existait pas. Dans ce cas, bi'idhn azzawajal, on peut manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba mangeaient le fromage que faisaient les majus, les majdado, les majus, de lire le fromage leur venait de l'étranger, quoi qu'il leur venait par l'Irak, via Irak, je ne sais pas d'où il venait. Et Mouhim, ils le mangeaient sans demander. Les majus, ce sont des kofars, est-ce qu'ils ont tué la vache ou là ils l'ont égorgé ou là comment se fait qu'ils ont fait ce fromage, etc. C'est pour ça que celui qui cherche beaucoup dans les petits détails, il risque de se faire beaucoup de problèmes. Naam. Je dis que ce qu'il y a à l'intérieur, s'il ne donne plus aucun goût, yani on ne peut pas sentir ni avoir le goût de cette chose, ça veut dire que, classe, elle n'a plus de produit, elle n'a plus d'effet. Et si cette chose est toujours là, si on mange la chose, on la sent avec elle, on sent yani, l'odeur de cette chose ou là, le goût de cette chose, en ce cas, ça devient interdit, bi-idhn azzawajal. Mais demandez, inshallah ta'ala, aux ulama, yani, non, il n'y a pas de goût, naam, ni odeur, naam. De toute façon, là, je ne sais pas exactement ce que c'est cette chose. Il faut d'abord que je sois sûr que c'est quoi cette chose. Je ne sais même pas yani, ce que c'est cette chose. Inch'Allah ta'ala, ça s'est transformé, naam. Quand une chose se transforme au point où elle a perdu sa vérité et son essence, elle devient halal. C'est comme l'alcool. C'est comme le khamr, l'alcool. Si quelqu'un a une bouteille d'alcool, une bouteille de vin par exemple, à la maison, il la laisse 3, 4, 5, 6 mois, et un jour, il l'ouvre, il trouve que ce n'est plus de l'alcool, il trouve que c'est quoi? C'est du vinaigre. Celle-là, il peut la boire et la mettre dans la salade. Et pourtant, hier, c'était de l'alcool. Naam, c'était hier, mais aujourd'hui, ça s'est transformé. C'est plus de l'alcool, c'est du vinaigre. Naam. Maintenant, c'est la même chose. Si ça s'est transformé au point où il ne reste pas sa trace, on veut dire bi-idhnillah, c'est halal. Wallah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Salafia 54 a dit. Salamu alaikum salam. Yashir, ma question. Non, ma question. Lorsque les petites ablutions sont faites, il faut faire la shahada. Doit-on lever le doigt pour le dire en murmurant en direction de la qibla, ou peut-on dire en soi sans lever le doigt et sans le dire à voix haute. Barakallahu fik chef, pour vous récompense pour votre patience. Amin. Salam wa barakatuh. Alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maghfiratou. Naam. Quand on termine le wudu, on ne lève pas le petit doigt. Naam, il n'y a pas un dalil qui dit qu'on doit laver lever le petit doigt, ni d'être en face de la qibla. Naam, ni d'être en face de la qibla. Donc quand on termine le wudu, quand on termine le wudu, on fait ni la shahada avec le doigt, non pas le petit doigt, l'index. Naam, l'index, pardon, je parlais de l'index. Jazakallahu khairan. Naam, je parlais de l'index, inshallah. Naam. L'index. Celui qu'on pointe dans le teshahud. Quand on termine les ablutions, tu te fais entendre. Si je dis la ilaha illallah, shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammad abduhu, la ilaha illallah wahdahu, shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammad. عبد الرسول فهم جعلني من التواب يطاع كمبيوتر هذا je ne sais pas pourquoi le computer اليوم aujourd'hui il fait ce problème. نعم ça coupe. Et maintenant est-ce qu'il y a du temps? Ils vont m'entendre toujours pas. نعم طيب le son n'est pas bien. Je disais que, non, c'est pas la peine de faire le teshahud. Et c'est pas la peine de se tourner vers la qibla. Et ce n'est pas la peine de dire à voix haute. On se dit en soi-même, on bouge les lèvres, on dit, par exemple, subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. C'est tout. Ou bien je dis shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan abdu rasul, lahum ja'alni min tawwabin, lahum ja'alni min mutatahirin. C'est tout. On a besoin ni de qibla, ni de pointer le doigt, ni de quoi encore, ni de le dire à voix haute. Naam. Prochain sou'al, inshallah, il reste un quart d'heure. La hawla wa la quwwata illa billah. Absent numéro 1, tfaddal. Inshallah ta'ala, les 15 dernières minutes. C'est quoi la question, inshallah, Hafsa ou la Hafsa? Peut-on faire la salat avec un qamis et rien en dessous? Si le qamis est assez gras, ou là, comment on dit, gros, yani il n'est pas fin. Il n'est pas fin pour ne pas montrer la aura. Naam. Si le qamis n'est pas, yani le qamis n'est pas fin. Je ne sais pas si on dit fin. Il ne doit pas être raqiq pour montrer يعني لا عورة. إيبي. بارك الله فيك فانسات يابي. نعم. Si le قميص est assez épais, y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est de ne pas montrer sa عورة. C'est tout. L'essentiel c'est de ne pas montrer sa عورة. Si le قميص est assez épais, il ne montre pas ma عورة quand je m'incline, quand je prosterne, il y a pas بإذن الله عز وجل de problème. نعم. Est-ce qu'un homme qui a versé une dot pour une femme et que le mariage est prévu pour bientôt et beaucoup de gens sont déjà au courant, est-ce que l'homme et la femme ont déjà des droits sur l'autre? Ou est-ce qu'il doit vraiment attendre à partir du jour de la Fatiha pour pouvoir se parler? Dame, en principe, quand un homme voit une femme, si elle lui convient et elle dit que lui aussi il me convient, ça, ils attendent quoi? Ils attendent qu'il fasse l'acte, qu'il fasse l'aqd, qu'il fasse ce qu'on appelle la fatiha. On l'appelle comme ça, mais il n'y a pas en fin de compte la fatiha. Non. Après avoir fait le fatiha, c'est sa femme, mais il ne lui est pas permis de faire des choses avec elle. Même si c'est sa femme. Pourquoi? Parce que pour les gens, elle ne s'est pas encore mariée. Naam. Il se peut que même les voisins ne savent pas qu'elle a fait le Fatiha. Des fois, on fait des choses, ces choses en cachette. Donc, pas tout le monde sait que elle est sa femme. Et il se peut que, après qu'elle fasse des choses avec lui, il se peut que il meure et elle est enceinte. Ou bien il la divorce. Elle trouve qu'il a des défauts là, il s'arrête. Et elle est enceinte. Et les salafs, radiyallahu ta'ala anhum, les salafs, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont jamais fait ces choses. Tamallah, dis-moi s'il y a le son. Barakallahu, tamallah, dis-moi s'il y a le son. Naam. Naam. Je disais, les salafs, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont jamais fait cette chose. Maintenant, les sœurs, yani, entre parenthèses, hein, pas toutes, sont devenues très faciles. Très faciles. Dès que l'amour kabbala, peut-être il n'y a même pas la fatiha, déjà ils commencent à se rencontrer, à se voir et à sortir ensemble. Allez, c'est seulement après la mukabala. Après la fatiha, ils font déjà ce que fait le couple. Là, c'est après la fatiha, un jour ou là deux jours, ils ont tout fait. Naam. Ça, les salafs ne l'ont jamais fait. Jamais on a entendu que les salafs, quelqu'un embrasser une femme ou là, avant qu'elle rentre avec lui dans sa chambre. Naam. C'est pour ça que les sœurs qui font comme ça, la plupart du temps, leur mari après les dégoûte. Naam. Parce qu'elle est très facile. Elle ne se donne pas de l'importance. Elle ne se donne pas la valeur. Naam. Plus tu empêches l'homme jusqu'à la nuit nuptiale, plus tu as de l'importance pour lui. Plus il te cherche, plus il te veut. Plus tu es facile, surtout si tu lui donnes tout, il peut très vite annuler le mariage. Soit il a tout. Soit maintenant il a goûté à tout avant la nuit nuptiale. Avant l'heure, s'il a tout goûté. Et il va vite dégoûter. Il va dire, je vais chercher une autre. Alhamdulillah, il a eu ce qu'il voulait de celle-là. Naam. Les salafs ne faisaient pas comme ça. Jamais quelqu'un n'a enlacé ou l'a embrassé une femme, même après le fatiha, avant de rentrer chez lui. D'ailleurs, les coutumes et les mœurs maintenant chez tous les gens, tous les musulmans, tous les arabes, ne permettent pas que quelqu'un fasse des choses avec sa femme avant qu'il rentre, avant qu'il fasse. La nuit nuptiale, naam, qu'on appelle la nuit de noces. Je ne sais pas s'il y a le son parce que c'est parti. Naam. Autre question. Donc je réponds à cette question. Naam, je réponds à cette question pour conclure jeudi. La vraie ourte est celle qui attend non seulement après le ard, mais encore elle attend la nuit. Elle attend la nuit nuptiale. Naam. Tu veux, je suis comme ça, tu veux pas, va chercher une autre. C'est pour ça que normalement, le tuteur, normalement, il la donne pas. Il ne fait pas la fatiha. Il ne la fait pas pour sa fille jusqu'à ce que rapproche le jour du mariage. Quand il sait que dans une semaine, ou là dans 20 jours, c'est le urs, là, il lui fait la fatiha. Il lui fait pas 4 ou 5 ans à l'avance. Et il laisse sa fille, elle est là, elle est là-bas, je ne sais pas où elle est, elle fait tout ensuite. Et le mariage, je ne sais même pas s'il va avoir. S'il va avoir lieu, c'est seulement devant les gens. Tout ça, c'est contraire, chose-là. Naam. On dit qu'on est salafi, mais dans ces choses-là, par malheur, on n'applique pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé à Aïcha de Abu Bakr, elle avait quel âge? Elle avait 6 ans. Et ensuite, 3 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur Aïcha. Il est rentré, elle avait 9 ans. Est-ce que pendant ces 3 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il parlé une fois avec Aïcha? Une seule fois. Est-ce que quelqu'un nous donne un délit ou seulement une fois il lui a parlé? Une fois. Alors c'était sa femme. Est-ce qu'il l'a enlacé? C'était sa femme. Est-ce qu'il a fait plus? Il est allé loin avec elle? Jamais. Naam. Jusqu'au jour du mariage. Naam. طيب. Maintenant, on doit terminer, inshallah, deux personnes de deux minhages différents. Est-ce qu'ils peuvent se marier, exemple, salafi et takfiri? Non, c'est pas possible qu'ils se marient. Salafi et takfiri, ce sera la guerre. Non. Parce que le takfiri, il va pas rester longtemps, et il va dire à la, à sa femme qui est salafi, il va lui dire, tu es une kafira. Non. Il va pas aller loin. Elle lui dit que, l'Albanie, par exemple, a dit que, celui qui ne fait pas la prière n'est pas kafir, s'il la fait pas paresseusement. Oh, il lui dit, tu es une kafira toi. Allez, tu es une kafira, donc tu es talaq. Va chez toi. Va chez ton grand-père et chez ton père. Naam. Ils peuvent pas. Naam. Et ensuite, le takfiri va lui faire des milliers de problèmes. Elle va passer sa vie, si elle est une salafia, elle va passer sa vie entre son mari. Un mois à la maison et deux ans en prison. Elle va voir son mari une fois tous les deux ans. Naam. Tous les deux ans, il vient un mois à la maison, et les deux autres années, il est où? Il est en prison, parce qu'il préparait des bombes. Il préparait des bombes, et il voulait, il préparait des voitures piégées. Hein? Et on l'a attrapé. Elle va passer sa vie, elle est dans de grands problèmes. Le takfiri ne connaît pas, n'a pas senti l'odeur de la sunna. Le takfiri, il a seulement des sentiments, et il se gonfle comme on gonfle un grand ballon. Et une petite épine qui le frappe, il se dégonfle. Mais il n'a pas de haine, le takfir, il n'a pas de haine. Il est comme les khawarij. Seulement, yani, seulement quelque chose dans le cœur qui brûle. Mais le haine, il n'y a pas. Naam. La femme, quand elle prie chez elle, doit-elle couvrir ses pieds? Et quand elle prie à la mosquée, y a-t-il un consensus chez les savants que les pieds des femmes sont awra? Cette chose-là, inshallah ta'ala, va venir dans le prochain dars, que doit cacher la femme. Il n'y a pas un consensus pour les pieds de la femme. Il n'y a pas un consensus entre les ulamas. Certains ont dit que la femme, quand elle prie seule, elle peut découvrir ses jambes. Certains ont dit comme ça. On dit que quand elle fait la prière seule, elle peut montrer ses pieds. Il y a des en bas, les pieds où il y a les orteils. Ils ont dit que c'est pas awra. Mais le plus juste, c'est quoi? C'est de dire qu'elle les cache. Elle les cache, c'est mieux. Pourquoi? Parce que Umm Salama, c'est qui? C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une de ses femmes. On lui a demandé, فِمَذَا تُصَلِّ الْمَرْءَ مِنْ ثِيَابٍ. La femme, quand elle veut faire la prière, comment qu'elle doit être habillée? Qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est ça, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle connaît mieux que toutes les femmes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, فِي الْخِمَارِ. Le foulard, elle doit avoir un foulard sur la tête. Ou le dira, c'est ce qu'on appelle à peu près le dira. Quelque chose, hein, elle met quelque chose sur les épaules qui descend. Ça s'appelle le dira. Des fois ça rentre par la tête, des fois ça rentre par la tête et ça descend. Et des fois ça a des boutons. Hein, on rentre les deux mains, comme par exemple ce qu'on appelle par exemple la robe de chambre, elle dit. Donc ça commence par les genoux, ça commence par les épaules et ça descend. Elle a dit, j'ai pas terminé, elle a dit, ou dira, et dira qui commence par les épaules, al-sabir qui couvre, alladhi yughayyibu buhura qadamayha, le vêtement qui commence par les épaules qui descend et qui couvre ses pieds. Elle a dit qui couvre ses pieds. Un hadith qui se trouve dans le Mawta de l'imam Malik. Et l'imam Nawawi a dit, hadith, yani, isnaduhu jayyid. Il a dit dans le Majmou' al-Nawawi. Il a dit, isnaduhu jayyid. Donc la femme du prophète, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, une femme fait la prière avec un foulard sur la tête et quelque chose qui commence par les épaules et qui descend jusqu'à couvrir les pieds. Donc le plus juste pour la femme, et pour que sa prière soit encore, inshallah, mieux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la salate à pied. Si elle veut pas mettre les choses, la salate, elle le met, et elle le choisit long, de façon à ce qu'il tombe par terre. Ses pieds, surtout, quand elle se prosterne, pour que ce soit à l'intérieur de cet habit, qui est vaste, assez large, il ne soit pas à l'extérieur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, il est 1h du matin, on va donner, inshallah, la dernière occasion, à Umm Rayhana, tafadlali, et on doit arrêter, bin Azza wa Jal. et demain c'est jeudi, vendredi inshallah ta'ala, rappelez-vous, on va faire seulement des questions réponses pour celles qui, ceux et celles qui n'ont pas posé leurs questions. Vendredi inshallah ta'ala à 19h30, en 19h30 et 20h, on va faire 2 heures seulement inshallah ta'ala pour vos réponses sans darf bi'idhnillah azza wa jalla. Na'am. La dernière question inshallah, Omar Ihana tafaddali. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. طيب, la question est posée, je l'avais pas vue. Hafidakallah, est-ce qu'une femme peut donner en aumône sans demander la permission à son mari? Et si elle veut que ce soit entre elle et Allah ta'ala, dans ce cas, lui est-il permis? Est-ce que vous pouvez répéter le hadith de Asma bint Abi Bakr? Barakallahu fik. Rappelle-moi, inshallah, quel est le hadith de Asma bint Abi Bakr? Je l'ai oublié. Rappelle-moi comment, ce que disait le hadith de Asma. Il parlait de quoi? Rappelle-moi, inshallah, de quoi parlait le hadith de Asma pour que je le voie ici dans le livre. Je ne me rappelle pas de quoi il parlait le hadith. Sur la souillure. Sur la souillure. Naam, je vais revenir un peu en arrière pour le voir. sur les vêtements, hein? D'accord, sur les vêtements, c'est mieux. Naam, je l'ai trouvé. Barakallahu fik. Comme ça, tu m'as aidé. Tu m'as dit sur la souillure, les vêtements. Jazakillahu khairan. Sah. Hadith Asma. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qalat. Sa'alat imra'atun. Une femme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqalat. Elle a dit, ya Rasulullah. Au prophète. أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف أسمع؟ Au prophète, si l'une de nous, le sang des menstrues, touche ses vêtements, qu'est-ce qu'elle fait? Il a répondu, صلى الله عليه وسلم, إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة, si l'une de vous, le sang des menstrues, touche un de ses vêtements, فلتقرصه, ça veut dire, elle le lave, elle le frotte avec le bout de ses doigts. Elle met un peu d'eau sur l'endroit où il y a le sang et elle commence à frotter comme ça avec ses doigts. Et maintenant, vous savez que par exemple, il y a le savon, il y a le homo, il y a beaucoup de choses. Yani, il n'y a pas seulement l'eau, il y a des choses plus faciles pour enlever, inshallah ta'ala, le sang. Il a dit, ثم لتنضحه بما. Ensuite, elle jette un peu d'eau et elle l'essore un peu jusqu'à ce que il ne reste pas la trace du sang. Maintenant, si la trace reste, on a bien lavé. Et la trace reste, ce n'est pas une mouchkila. Non, c'est possible. Pourquoi? Parce que la najasa, la souillure, c'est le sang. C'est pas la marque qui reste. Des fois, tu enlèves bien, tu frottes, et la trace reste. La trace n'est pas importante. L'important, c'est que le sang n'existe plus, on l'a enlevé. Non. Voilà le hadith de Asma. Radiallahu ta'ala anha. Je vous disais qu'inshallah ta'ala vendredi, quoi qu'il n'y a pas, c'est pas parce que barakallahu fiik, naam, inshallah, pour répondre à vos questions, bi'inna azza wa jal, subhanak la ilaha illa ant.